Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je tiens tout de suite à me désolidariser de cette phrase. Le buffet à volonté, c'est pas du tout mon truc.
D'accord.
Je préfère un bon chinois, un bon Jap, mais pas de buffet à volonté.
L'assiette gâchée à 5 euros,
voilà,
un 5 euros de supplément.
Ça, ouais,
ça j'ai un gros problème. C'est buffet à volonté ou c'est pas buffet à volonté? Je vais pas payer 5 euros si j'ai envie.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC, de 20h à 22h. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast et nous regarde sur After Food TV avec ce soir le duo de l'été, toujours. Kevin Diaz est là ce soir. Salut KD.
Salut à tous.
Walid Acharchour est dans la place. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Les gars.
Ça va très bien.
On a digéré le petit kebab d'après Génération After d'hier.
Ouais, non, moi j'ai pas mangé de kebab. Moi.
C'est fait.
Ah
oui,
d'accord. Ah non, moi j'ai une petite poké hier en rentrant.
Ouais.
Ouais. Je mange tout le soir, moi. Moi
j'en fais
le salade
César.
Moi, c'est
salade César,
sans
salade grecque,
ouais,
sans sauce.
Salade après grecque. 19h, je
mange plus. La César, c'est meilleur que la grecque, hein, je l'ai pas dit.
Pas du tout, mais
déjà la salade César,
très bonne salade dressing, César, c'est
ce dressing horrible là. Sans... Ah non, moi je
salade César croton, c'est bien meilleur qu'une salade grecque, je suis
d'accord. Une César à volonté.
Non, mais attends, tu mets la sauce blanche là. Cette sauce blanche qui est infâme.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ça hier soir.
C'est dur.
Mais elle est infâme cette sauce.
Elle est excellente.
Elle sert à rien la sauce blanche, c'est comme la salade grecque.
Non,
elle a pas de goût la sauce blanche.
César, c'est
ce que disent en mettent trop et tout.
Génération After au programme ce soir à partir de 21h. Dans une heure, donc, on parlera de Marseille, Ceballos qui ne vient pas finalement, le joueur était hésitant, on a tranché, c'est le leitmotiv de Mehdi Benatia notamment, si un joueur n'est pas motivé à 100%, on passe à autre chose. La liste de Deschamps également pour les qualifs, pour l'Ukraine et la Pologne, et l'Islande, pardon, Akliou appelé pour la première fois, comment peut-il s'insérer dans le système Didier Deschamps. Mais dès 20h, dans quelques secondes, notre invité exceptionnel sur RMC dans Génération After, il a joué 560 matchs en pro, 41 sélections en équipe de France, Arsenal, Manchester City, CVFC, Marseille, évidemment. Samir Nasri est avec nous dans Génération After. Salut Samir.
Salut, salut, salut à tous.
On est très
salut
heureux Samir. De t'accueillir sur RMC ce soir. Je crois que tu connais un peu des gars autour de la table.
Un petit peu. Hein. Un petit peu. Oui.
Deux joueurs corrects au paddle. Juste corrects. Ils sont timides. Timides, les gars, ou quoi?
Non, pas timides. C'est vrai qu'on l'a un peu initié au paddle sur la dernière année et il progresse de jour en jour. Ça commence à devenir un peu dur.
Il a dépassé le maître ou pas?
Ouais, là il est arrivé à maturité. Mais bon, c'était la suite logique. C'est la suite logique.
Moi, la première rencontre avec Samir, c'est quand il est venu débaucher un joueur de mon équipe.
Ah oui, c'est pour rappeler l'anecdote.
Ça, on va la garder parce que j'étais sur le cours aussi. Et moi, j'ai un peu vénère contre toi et Samir parce qu'on jouait. En plus, je faisais un super match.
Une pression psychologique.
Et il faut raconter le contexte. On rencontre après.
Vas-y,
on s'est pas,
après.
Mais on s'est pas trompé quand même.
C'est vraiment pas trompé.
Ouais,
c'est pas mal.
Effectivement. Alors ce soir, on a une heure un peu plus et des poussières avec toi, Samir, car on
va jusqu'à minuit là. Il a pas compris.
Évoquer ce documentaire qui est consacré à ta vie, ta carrière de Septem Les Vallons au titre en Première Ligue. On le verra dimanche soir sur Canal+ à 21h. Où tu es consultant, bien sûr. On va refaire ta carrière, parler un peu de l'OM, du PSG, de Ballon d'Or aussi. Peut-être si on a le temps, de la liste de Deschamps également. On est heureux de t'avoir ce soir avec nous. Et puis ensuite, on passera la main, bien sûr, à Gilbert Bribois pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Walid, il tremble un peu parce que c'est ton idole quand même.
Ouais, oui, c'est mon joueur préféré. Mais bon, c'est bon, je suis passé.
Attends, qu'est-ce qui nous a bassiné avec Samir Nasri pendant des années
avant de le connaître? C'est vraiment ton joueur préféré?
Oui,
ou pas
mon joueur préféré. Ah, ouais.
Au-dessus de Zizou?
Bah, Zizou, en fait, moi, j'aime bien avoir un joueur préféré. Pas
générationnel.
Goat, non, mais pas GOAT. C'est-à-dire pas les très, 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 très forts.
D'accord. Ah, tu dis qu'il est pas très très
si, très 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 fort, mais pour moi,
l'échappe deux,
mais pour moi, joueur préféré Messi, Ronaldo, Zidane,
oui, c'est pas du jeu.
Moi, mon vrai joueur
joué.
Préféré, le joueur que j'aime, etc., c'était Samir Nasri.
Très
et
bien.
Au passage, il y a une vraie histoire avec, moi, je l'ai déjà raconté, mais avec l'after, parce que j'appelle la première fois. Pour défendre Samir Nasri après un France-Ukraine.
Ah, t'as fait le 32-16?
Ah oui, oui, oui.
Je savais pas.
Je m'étais embrouillé avec Daniel.
D'accord.
Déjà.
Ça, c'est impossible.
Déjà.
Il sera là tout à l'heure.
À 22h.
Avec Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tour. On va parler de le mercato, bien sûr. Les dernières infos, notamment à Marseille. La liste de Deschamps. Qu'est-ce qu'on a encore au programme? De Zerbi, parce qu'en fait, De Zerbi, il a un peu la pression, mine de rien, maintenant. Donc, on va voir ce qu'on dit l'after. Tout à l'heure, il va falloir qu'il ait des résultats. Et puis, dans le cadre de nos 20 ans, on lance une grande série sur les matchs qui ont marqué l'after. Ce soir, on va parler de PSG Bucarest.
PSG Bucarest.
Oui, tu étais tout petit. Mais
quelle année?
Déjà vieux.
Quelle année?
Je sais plus.
D'accord. Tu n'as pas encore travaillé le match, Gilbert?
Pas encore.
Il a deux heures.
Donc voilà, ce sera tout à l'heure. On aura d'ailleurs Jimmy Algerino qui était sur le terrain.
D'accord, le grand Jimmy.
Voilà.
Voilà.
C'est tout, je vous laisse.
Enfin, 97, t'avais 4 ans.
97.
97, j'avais 3 ans.
3 ans, t'as 93.
Ouais, 93.
C'est ça.
Si je suis encore compté.
Merci Gilbert.
À tout à l'heure.
De 22h, je vous rappelle qu'on est également sur la chaîne YouTube de l'After. Vous êtes de 275 000 abonnés. Le chat est ouvert. Vos messages qui apparaissent dans le mur. Alors, tu vois les messages derrière moi, Samir. T'as quoi? T'as Wawa PSG qui dit je suis parisien, mais je t'aime, Samir. Ça, c'est fort.
C'est gentil, ça, c'est merci.
Il y a aussi Benjedo qui m'appelle Nicolas Germain. Alors, je m'appelle Nicolas Jamin. J'avais un poster de Samir dans ma chambre. Et t'as Sylvain qui dit Petit Prince. Voilà, on est heureux de t'avoir avec nous ce soir. Samir, c'est parti. Donc pour ce documentaire d'1h30, hein, réalisé par l'excellent Marc Sauvourel, Samir Nasri Rebelle, c'est le nom de ce documentaire. Marc a attendu le micro à Cesc Fabregas, ancien coéquipier, Arsène Wenger, ancien coach, Patrick Vieira, Djibril Cissé, Jérémy Ménez, Mamadou Niang, tes frères, sœurs, ta mère, ton père. Ton très grand ami aussi, il est important dans le documentaire Mehdi Benassia, que certains vont découvrir encore un peu plus dans ce documentaire parce que tu en parles. C'est un très proche, Mehdi, pour toi. L'histoire remonte à plus de 20 ans désormais. On a eu la chance de le voir, hein, tous les trois, Kevin, Walid et moi, avant la diffusion dimanche soir sur Canal. Déjà, te dire qu'on l'a tous beaucoup aimé, on peut le dire. On est d'accord.
Bien sûr.
C'est très bien réalisé. C'est sans concession également. Parce que ça ravive des grands souvenirs qu'on a, nous aussi, en tête, hein. C'est un peu notre génération. Le football début 2000, 2010. Tout à fait. Tes débuts à Marseille. On va en parler. Le succès, les victoires. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, ça raconte aussi, ce qu'il y a de bien dans le foot et ce qu'il y a de pas bien. Voilà. Ouais. C'est ça l'objet du documentaire. La pression énorme, l'attente autour de toi, à Marseille qui plus est. Et puis, les polémiques dont tu es parfois responsable, on va en parler aussi. Les médias aussi qui se sont jetés sur toi parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Tout ça, on va l'évoquer, on va tout balayer ensemble. D'abord, une question, Samir, que j'ai pas dans le documentaire. Tu parles de grands moments, on parlera de City, notamment ton titre en 2012. Est-ce que t'as vraiment kiffé ta carrière? Vraiment?
Ouais, vraiment, j'ai kiffé, ouais. J'ai kiffé parce que pour moi, le foot, ça représente un petit peu tout dans ma vie. C'est ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. En plus, réussir dans le club de ma ville, Marseille, comme je le dis au début du documentaire, quand tu nais à Marseille, ça te suit tout le long de ta vie. Et de réussir de jouer au Vélodrome, déjà, pour moi, ça a été une réussite. En dehors de mes expériences à l'étranger, après à l'étranger, quand tu gagnes des trophées, bien sûr, ça valide le fait que tu as fait le bon choix. Mais ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé ma carrière.
T'es nostalgique ou t'es vraiment passé à autre chose désormais, quoi?
Non, passé à autre chose complètement. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, je suis vraiment passé à autre chose. Il faut savoir aussi dire stop au bon moment, ne pas continuer à persévérer pour rien. Et puis le choix d'avoir arrêté aussi, c'était un choix qui a été dicté un petit peu pour raisons familiales et de santé. Donc, ouais, j'ai pas eu de regrets là-dessus.
Bon, on va parler aussi de ton rôle de consultant que tu découvres depuis 3-4 ans maintenant, pas de canal, et qui a aussi restauré ton image auprès de certains.
Oui.
Façon du Gary, oui. Comme Christophe l'avait vécu en rejoignant Canal à l'époque. Alors le doc, il commence très fort, très efficace, Marc Sauvourel dans le montage. Tu dis dès le début, j'ai entendu pendant ma carrière que j'étais le nouveau Zidane, le nouveau génie du foot français, mais aussi une Kaira, un petit con, le bad boy, un animal nocturne, toutes les rumeurs possibles. Et là, il te demande, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et tu réponds honnêtement, et c'est pour ça qu'on te kiffe aussi, un peu tout.
Ouais, c'est vrai, un peu tout. Un peu tout, je pense que, bon, jamais de fumée sans feu. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs, mais la plupart ont tout été un petit peu vrai, quoi.
Un peu vrai, parfois un peu exagéré peut-être, aussi. En tout cas. Tu incarnes aussi la génération 87, ça c'est au cœur du documentaire, dont on a beaucoup parlé ici même dans l'after, avec Jérémy Ménez, Karim Benzema, Atem Ben Arfa, la première génération avec des codes différents, qui passait pas auprès de certains anciens dans le vestiaire, notamment, auprès des médias généralistes aussi, qui avaient du mal à comprendre votre façon d'aborder le foot. C'était quoi par exemple? C'était le casque vissé sur les oreilles, la musique, des codes vestimentaires également?
Oui, c'est un peu tout. On va dire, on est la génération hip-hop en fait. On a grandi avec cette culture. Nicolas Anelka, c'est le premier joueur vraiment issu des banlieues à représenter autant les banlieues. Nous, on est tous de différents horizons. Atem et Jérémy sont de la région parisienne. Karim, il est de la région lyonnaise et moi de Marseille, mais on a tous grandi un petit peu dans le même environnement. Donc, on a eu ce truc-là et quand on est arrivé en pro, on n'avait pas forcément les codes des anciens de tout ce qu'il y avait à l'époque. On était là, en fait, pour prendre notre place et pour s'installer. Alors, peut-être qu'on n'avait pas forcément les codes, mais quand je vois les générations d'aujourd'hui, ils ont le même comportement que nous, mais aujourd'hui ça dérange plus en fait, parce
exactement.
Que il y a on a été les premiers à l'avoir fait et ça a dérangé. Et après, finalement, tout le monde s'est adapté et ça a évolué un petit peu avec la culture d'aujourd'hui.
Kevin.
Écoute, moi déjà, bravo pour le documentaire parce que moi, ce que j'aime dans ce genre de format, c'est souvent les Américains font ça, que ce soit dans des inside avec des clubs ou pour retracer la carrière d'un entraîneur ou d'un joueur. C'est qu'en fait, j'ai redécouvert toute ta carrière.
Ouais.
Et ça, c'est top. Parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées, je me rappelais plus que t'avais commencé si jeune, et puis ensuite que t'avais choisi de partir d'Arsenal, alors que t'avais Manchester United et que City c'était le tout début du projet. Et que...
Il y avait le PSG aussi, on en parlera. Hein.
Oui, ouais. Mais bon, ça, le PSG, ça reste anecdotique. mais ce qui est vraiment très bien, c'est que même les plus jeunes ou les moins jeunes. En fait, on va tout redécouvrir. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. À la base, je voulais faire que la moitié hier soir, la moitié cet après-midi, mais j'ai tout regardé hier soir parce que ça suit un peu comme une série. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et je donnais une anecdote. Moi, j'étais persuadé que t'étais un Einstein. Et tu le dis dans le documentaire, tu vois. Et c'est des biais cognitifs.
Vraiment,
que...
t'étais persuadé de ça.
Enfin, persuadé, j'aurais pas mis ma main à couper, mais je pensais qu'il y était, tu vois, pour moi, dans ma tête, il y est.
Comme pour beaucoup de Français.
Et en fait, les problèmes que t'as eu, c'était après Naïsna, tu vois, mais
on
te rappelle pas, il y a des milliers de joueurs qui passent bien en sûr. Équipe de France, on se rappelle pas de toutes les histoires de qui, par exemple, un truc tout bête, il y en a qui pensent que Thiago Silva, il a joué le 8-1 avec le Brésil, ouais. Le 7-1, ouais. Alors qu'il a pas joué, ouais. Tu vois, donc des fois, il y a
c'est
des choses.
C'est l'inconscient qui joue.
Voilà, c'est ce que je te dis,
on t'a associé à Franck Ribéry,
que Lewandowski était au Bayern contre Dortmund, lors de la finale Bayern Dortmund alors qu'il était à Dortmund.
Mais c'est des biais cognitifs.
Il y a des trucs comme ça dans l'inconscient des gens.
Et en fait, Fabregas le dit aussi, quand on te met une étiquette dans le foot, mais il y a pas que dans le foot, dans la
oui,
vie aussi.
Dans la vie en général.
C'est très très difficile de s'en décoller. Et moi, ce que j'aime dans le documentaire, on pourra en reparler après, c'est aussi ce chassé-croisé entre les gens du foot et ta famille proche.
Ouais.
C'est-à-dire ta maman, tes frères et sœurs. Et à un moment, elle parle de l'éducation, et on voit très bien que tes frères et sœurs et leur éducation, elle est irréprochable, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils ont le recul sur les événements et tout. Et toi aussi, finalement, on découvre ce côté attachant, et bon, moi, je te connais pas bien, mais même pour avoir croisé un peu Jérémy Ménez, ou d'avoir eu des échos même d'Atem Ben Arfa.
Bien sûr.
Tout, sur vous quatre, c'est les mêmes échos. Oh, quand tu le connais dans la vraie vie, c'est pas du tout le même. Et moi, je pense que, pour finir, on y reviendra, mais ce documentaire-là ou ce genre de documentaire, faut le passer dans les centres de formation. Parce qu'il faut que les gars, ils comprennent que, ouais, les embûches, c'est pas que les anciens qui leur disent, attention à ci, attention ouais. À ça, les médias, le média training. Eux, ils se disent, ouais, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu comprends pas tant que tu l'as pas vécu, je pense.
C'est clair.
Tu disais tout à l'heure, on est une nouvelle génération avec des nouveaux codes et notamment une grande confiance en soi. On en parle souvent, les jeunes désormais. Bon, Kylian Mbappé est un peu l'archétype désormais, le sommet de tout ça. Me parlez pas d'âge, c'est pas une question d'âge quand on est prêt à jouer, à débuter. Toi, tu dis dans le documentaire, on est venu pour tout prendre. C'est ça que tu disais, tout ouais. Prendre avec la confiance, se dire, c'est parce que j'ai 17 ans ou 22 ans en équipe de France que je dois m'incliner devant un Pat Vieira ou un Lilian Thuram.
Non, il y a le respect. Il y a le respect parce qu'on respecte la carrière, ce qu'ils ont fait. Mais si je suis arrivé dans cette équipe-là et je suis avec toi dans la vie de tous les jours ou dans un groupe, ben on est là pour prendre la place. On n'est pas là pour faire des politesses ou être un petit peu trop respectueux en termes footballistiques. Moi, j'étais là. Ok, je suis arrivé là. La vérité, moi, quand je viens d'un milieu très très modeste, donc j'avais les crocs. Moi, je voulais sortir mes parents, mes frères, ma sœur de la vie du quartier. Je voulais leur acheter une maison. Je voulais réussir. Et comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au tout début, non, c'est ma chance, c'est à moi de la saisir, et donc je vais tout faire pour.
Et ça a été mal perçu, parce que il y a notamment dans Intérieur Sport la phrase de Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. Il y avait aussi l'anecdote de Karim Benzema qui dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais à l'époque en rigolant avait dit non mais de toute façon moi rigoler sur mon bizutage mais moi je vais vous prendre je vais prendre votre place. Est-ce qu'à l'époque il y avait pas un décalage immense entre votre génération et l'ancienne et qu'il y avait des choses à pas faire est-ce que
pour
ça...
les anciens se faire respecter c'est
ça
avoir que les jeunes s'inclinent devant eux.
Exactement.
En réalité,
est-ce que c'était ça, c'était pas ouais, ça les règles du, les règles
toi,
du
non.
Jeu à l'époque
pour moi non
et toujours pas aujourd'hui dans ton esprit
non pour moi non. J'étais, on va dire, cet ancien. Lorsque j'avais fait mon passage à Anderlecht, où Vincent Kompany m'avait appelé pour que je vienne jouer à Anderlecht et que je l'aide aussi en étant dans le staff. Il m'avait demandé, ouais, tu te mets dans le vestiaire avec nous, les coachs. Je lui avais dit non, si je suis encore joueur, je me mets dans le vestiaire avec les joueurs. J'ai pas envie de leur envoyer un signal un petit peu bizarre aux joueurs. Et les jeunes qui étaient là, il y avait Jérémy Doku, il y avait Alexis Alemakers, qui aujourd'hui joue les deux dans des grands clubs. Mais j'étais à fond dans. avec eux dans la mentalité qu'ils avaient. Ils étaient là, ils acceptaient pas, ils étaient pas contents quand ils étaient sur le banc parce qu'ils sont sûrs de leur qualité. Et aujourd'hui, dans le monde du foot, c'est difficile quand on voit les réseaux sociaux, les messages qu'ils peuvent avoir. Ces jeunes-là, ça peut les toucher. Moi, je suis content de voir quelqu'un qui est sûr de lui et qui a envie de s'imposer. Au contraire, je ne le prendrai pas comme un manque de respect si le jeune, il pense qu'il est meilleur que moi à ce moment-là.
T'étais venu pour tout prendre, y compris la place de Thierry Henry dans le bus. C'est un moment fort du documentaire aussi, on va pas tout dévoiler. Je rappelle l'épisode, en tout cas, équipe de France, bien sûr, tu montes dans le bus avant lui, tu t'installes à sa place. William Gallas, qui était pas ton pote, hein, c'est moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, s'agite, Henry arrive, il te demande de te lever, tu restes plusieurs secondes assis, le casque sur les oreilles en lui disant que son nom n'est pas écrit sur le siège. Avant finalement de lui céder sa place. Tu savais que c'était la sienne ? C'était une provoque ou non, là, une volonté de s'imposer là ou non, c'était une maladresse ? Non,
honnêtement, je savais pas du tout que c'était sa place parce que si on voit un peu l'historique sur les 3 ou 4 premières sélections, Thierry Henry était pas là, il avait une blessure au dos et c'était sa dernière année à Arsenal. Et donc je me mettais toujours à cette place et ce jour-là, il fait son retour en sélection, donc je me mets à cette place-là et derrière. Dans les groupes, c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeune, on essaye de le titiller pour voir comment il va réagir. Tout le monde dit derrière, il y avait Willy Sagnol, il y avait William Gallas et Patrick Vieira. Et les trois, ils disent « Bon, on a fait un pari pour voir si tu vas te lever, parce que c'est la place de Thierry Henry. » Et Patrick, il fait ça pour me chauffer, Patrick. À ce moment-là, il me dit « Moi, j'ai parié que tu n'allais pas te lever. » Et là, j'ai 19 ans et il m'en faut pas plus pour me chauffer un petit peu. Donc, je mets mon casque, c'était à l'époque, de l'iPod. Et je mets pas de musique exprès, et je suis assis comme ça, et quand il vient Thierry, en fait, c'est sa première remarque, et qui dit, les jeunes, ils savent pas, c'est la place de qui. Et moi, je fais semblant, je l'entends. Et il me tape comme ça dans l'épaule, il me dit, lève-toi. Et en fait, c'est sa façon dont il me l'a dit, j'ai fait semblant de dire, il y a pas ton nom, donc je me lève pas. Et là, j'ai vraiment mis la musique juste après. Et après, il m'a retapé dessus, j'ai enlevé le casque. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, je suis superstitieux, c'est ma place, je suis là, ça fait 10 ans, tout ça et tout. Je me suis levé, je lui ai laissé la place. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu de l'écrire dans un livre et de dire que...
C'est William Gallas qui l'a fait.
Et de dire qu'en gros, les problèmes générationnels, c'est pas un problème générationnel. À la rigueur, si on se tape dessus, que tu le mets dans un livre, non, mais... je veux bien. Et surtout que... Mais... La personne qui était là juste avant nous avait fait un livre.
Jérôme.
Et j'étais bien placé pour le savoir à Arsenal. William Gallas l'avait mal pris parce qu'il le nomme dedans. Et il avait très mal pris. Il disait, ouais, moi je comprends pas pourquoi dans un livre on nomme des anciens joueurs, faut pas faire des trucs comme ça. Et lui, 6 mois après, il me fait la même chose. Donc j'étais très mal pris et c'est de là que.
Parce que les livres sont faits pour être vendus et parfois aussi les éditeurs disent, il faut des exemples, il faut de la polémique.
Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, deuxième chose que j'ai appris hier, c'est que tu t'as fini par lui laisser sa place.
Mais oui.
On savait pas ça.
Je pense qu'il y a 99% des gens qui suivent le foot qui pensent que tu lui as jamais laissé sa place.
Non, donc
90% des gens disaient, Samir Nasri, petit con, il fait ça à Thierry Henry, la légende.
Mais moi, je te le dis, je l'ai déjà dit ça. Pas forcément petit con, je me serais pas permis. Mais j'ai déjà dit, non, mais attends quand même, il avait pas laissé la place à Thierry Henry, tu vois. Alors qu'en fait, tu l'as laissé. Donc c'est pour ça qu'il est important ce documentaire. T'aurais même pu le faire, je sais pas, à la fin de ta carrière ou avant. Parce qu'en fait, ça rétablit des vérités. Et je reviens sur ce que tu disais sur le fait, moi les nouvelles générations, je les ai connues, moi je suis 83, je les ai connues dans des vestiaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, peu importe. Moi c'est pas ce qui me gêne parce qu'au final ça se finit toujours bien, ouais. Tu vois. Mais tu parlais de code, il y a le code et il y a l'éducation. Toi l'éducation tu l'as, d'ailleurs c'est un truc qui a piqué ta maman, qu'on dise que t'étais pas éduqué ou t'étais mal éduqué, etc. Et c'est normal, toutes les mamans qui sont occupées de leurs enfants auraient réagi pareil, mais... Le souci, c'est pas forcément que de l'éducation, en fait. C'est un petit peu d'éducation, un contexte, un peu de fierté, un moment où là, tu racontes que c'est Patrick Vieira qui te chauffe. Et du coup, ça reste pendant, si t'avais pas fait ce documentaire, peut-être toute notre vie, on aurait cru que t'avais pas laissé la place, tu vois. Et c'est ces petites choses qui font que, encore une fois, je reviens au fait que, et tu le dis dans le documentaire, et tes frères aussi le disent, on se rend pas compte de ce que t'as vécu. Et moi, je pense que oui.
Est-ce que eux aussi ont vécu d'ailleurs?
D'être né à Marseille. De percer à Marseille. T'es un des seuls qui a percé à Marseille. C'est fou.
Tu vas trop vite, Kevin.
C'est que, on parle du départ et pour les jeunes générations, ce qu'ils vivent, les réseaux sociaux, l'exposition, et on en parlait hier sur les jeunes joueurs, parce que toi, t'as été quand même exposé très jeune. Tu disais que, je sais pas, 6 mois après, mais ça, tu vas le dire. Mais franchement, ça doit être compliqué.
Il veut tout spoil, Kevin. Il veut tout spoil. Non, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai clippé dans l'anecdote, c'est que Thierry Henry n'a pas pété un plomb, en fait.
Non.
Il est resté très calme, lui.
Non, il est resté très calme.
D'autres auraient pété un plomb, mais lui, il est resté La vérité, il t'a expliqué quoi.
Il est resté très calme, il m'a expliqué, je me suis levé, il m'a même invité à s'asseoir à côté de lui, il avait son classe. Ordinateur de l'époque, il a même sorti un truc pour mettre double écouteur dessus, il m'a dit viens on regarde une série ensemble.
Mais voilà.
Et moi à l'époque, je lui dis mais c'est quoi comme série, c'est en quoi? Il me dit c'est en VO. Ouais, mais moi je parle pas anglais, j'étais encore à Marseille. J'ai dit, non, laisse tomber, j'ai mis mon iPod et j'ai écouté ma musique. Mais voilà, c'était surtout ça, c'est super bien terminé, on s'est revu avec Thierry, on s'est pris dans les bras, on discute. Il y avait vraiment pas lieu d'en faire toute une histoire.
Mais avec le recul, Samir, quand on regarde le documentaire, en fait, c'est le point de départ de ta carrière en équipe de France. Au final, parce que derrière, tu fais pas 2010 parce que, enfin, c'est comme ça qu'on le comprend dans le documentaire. Bah, les cadres, on sait que les cadres sont très importants et que.
Un cadre
qui était important. J'ai l'impression qu'entre toi et William Gallas, bah, que Raymond Domenech a choisi William Gallas.
Et c'est normal.
Que derrière en 2012, déjà tu reviens, mais t'as un peu derrière toi cet épisode en disant bon, faut pas qu'il se loupe. Qu'en 2012 ça se passe aussi un peu mal, et qu'après derrière Deschamps, j'ai l'impression qu'en fait ce passage-là est quand même le passage qui détermine tout au final ou pas?
Non. Je pense qu'il y a certaines choses après qui ont fait que, tu vois, même il y a certaines performances qui n'ont pas été à la hauteur, donc forcément tu deviens pas légitime d'une certaine manière. 2012, moi jusqu'en 2012 avec Laurent Blanc ça se passe bien. On oublie peut-être, mais la qualification à l'Euro, c'est moi qui mets le pénalty décisif contre la Bosnie avec Laurent Blanc, ça se passait super bien. Après j'ai une réaction d'humeur parce que j'avais des comptes à régler avec les journalistes de l'équipe qui depuis moi, c'est pas simplement les matchs de préparation, mais même avant ça mon départ d'Arsenal à Manchester City, j'ai aussi mal pris que certains consultants qui étaient des joueurs de foot qui avaient fait des choix, eux, dictés par l'argent, m'ont traité de mercenaire parce que j'avais quitté Arsenal. Donc il y avait aussi une accumulation de beaucoup de choses, et eu ma maladie aussi qui a fait, qui m'a changé aussi sur le monde du football. Donc non, il y a plusieurs trucs. Et Didier Deschamps, la relation pour moi avec lui, elle avait mal débuté parce qu'à l'Euro 2012, il n'était pas encore sélectionneur. On savait qu'il allait prendre l'équipe après l'Euro 2012. Et il m'a appelé à moi personnellement pour discuter des futurs plans et compagnie. Et après la suspension, il n'a pas tenu toutes les promesses qu'il a eues envers moi au téléphone. Donc c'est pour ça que, et moi je suis quelqu'un, je me ferme de suite. En fait, si je m'aperçois que la personne est hypocrite ou elle est pas franche comme moi, j'ai un peu de mal avec le rapport humain de temps en temps.
Donc 2012,
on va faire l'équipe de France tout à l'heure, dans le détail notamment. Dans un instant, on va commencer par Marseille aussi. Tes débuts en bas de l'immeuble, tu jouais quasiment tous les soirs, même si ta mère voulait que tu sois médecin ou avocat. T'as choisi footballeur professionnel. On va raconter ça. Arsenal, City, Fabregas, Wenger. De tout ça, on va parler. On a du temps avec toi, Samir Nasri, notre invité exceptionnel dans Génération After sur RMC, 20h23, tout de suite.
RMC. 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Génération After, on est ensemble jusqu'à 22h. Notre invité ce soir, Samir Nasri, qu'on est heureux d'avoir avec nous pendant au moins une heure. On va parler de Marseille après avoir parlé de ta carrière de manière générale pour l'instant. L'OM, 4 saisons chez les pros, mais d'abord le ballon en bas de l'immeuble, bien sûr. Tu joues au foot tous les soirs, en bas de chez toi, à Septèmes-les-Vallons. Ta mère te répète qu'elle veut que tu sois médecin, je l'ai dit. Toi, tu penses qu'au foot. Et tu dis que les meilleurs souvenirs, c'était là, à cette époque.
Ouais.
Ça c'est sincère, parce que la plupart des joueurs nous disent ça. C'est les premiers ballons avec les potes dans la rue ou sur un terrain.
Quand même Agüero 98e quand même.
Ouais, mais
attends, on en parlera après.
Mais je te jure, c'est pas pareil. En fait, c'est l'insouciance. Quand tu grandis dans un quartier, c'est le partage, c'est ces moments, c'est ces souvenirs, en fait. Parce que quand ça devient ton métier, avec l'accumulation de la pression médiatique, de l'engouement des gens, en fait, toi, t'es pas préparé à ça. Toi, t'as juste envie de prendre un ballon, d'aller taper avec tes potes et de t'amuser.
En toute insouciance.
Eh oui, donc
finir ses devoirs et le bonheur quand tu dévales les escaliers et que tu vas jouer avec tes potes.
Tu sais que là, pendant deux heures, c'est ta Ligue des Champions, c'est ta Coupe du Monde avec tes potes. Tout. C'est excellent.
Bon, comment ça s'est passé? Qui t'a repéré d'abord?
J'ai commencé dans le club de mon quartier. J'ai fait 2 ans. Après, je suis parti dans un club juste à côté, au Pen Mirabeau. J'ai fait une saison et j'avais un entraîneur que son fils y jouait dans les catégories de jeunes à l'Olympique de Marseille et qui avait parlé avec le recruteur Freddy Assolen en lui disant voilà, j'ai un petit, il faut que tu viennes le voir. Et il est venu me voir et il est venu. Il a proposé à mes parents que j'aille faire un tournoi d'abord à Florence. avec la génération 85. Je suis parti faire ce tournoi là-bas.
Toi, t'es 87, hein, je pense.
Ouais, j'avais fait ce tournoi, ça s'était super bien passé. En plus, moi, avec des yeux comme ça, parce qu'on a joué la Juve, l'Ajax et tout. Et je termine meilleur joueur du tournoi, on rentre à la maison, et après, l'OM vient pour me faire signer, en fait.
Ce qui est dingue dans le documentaire, c'est que donc... Le fameux recruteur vient avec un maillot de Laurent Blanc.
Ouais, c'est génial.
C'est dingue.
Mais moi, je croyais que c'était Laurent Blanc.
Ouais, non, mais ça, mais le Laurent Blanc, en fait, t'as la caricature totale, ça, en fait.
Totalement.
T'as l'impression d'être dans 3-0 quand ouais, il te dit, c'est ce stylo, Lilian Thuram a signé avec.
Ouais. Mais attends, c'est, d'ailleurs, la force du docu, on l'a pas dit, mais il y a des images d'archives.
Ah, ouais,
j'ai jamais vu sur le doc d'un voleur.
C'est
qui filme quand il vient chez toi?
Stéphane Meunier.
Ah oui, d'accord.
C'est celui qui
a fait aussi à la Clairefontaine.
Les yeux dans les bleus.
Mais il a fait aussi à la Clairefontaine.
Oui. Ah ben en fait, oui. Stéphane Meunier, après les yeux dans les bleus, il est descendu à Marseille. Il a fait un reportage qui s'appelle Tellement Marseille. C'est sur c'est un groupe de street dance à Marseille et sur une équipe. Et c'était mon équipe en fait. Et il avait choisi trois joueurs. Il avait choisi un jeune qui s'appelle Renaud à l'époque. Il avait choisi Ahmed Yaoui et moi-même. Et il a des images, mais
incroyable. Non, encore, on voit Gabin sur le terrain. Tu sais que je regardais les images, je me disais, mais elles sont dingues les images, tu sais, c'est bien filmé. Ouais. Et, mais ça m'a pas du tout tout seul, le gars, c'est un monstre.
Les ouais. images quand il marche pour aller chez lui, etc., au début du
c'est
documentaire.
Fou, c'est fou, limite, on dirait une fiction en fait.
C'est vrai, c'est
une IA.
C'est une IA,
voilà, c'est ça.
J'ai cru que c'était une IA à un moment. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire?
Ce qui est marrant, c'est quand il arrive, il dit à un moment, bon, t'auras un chauffeur, il viendra te chercher, il te ramènera. Et là, ta mère a fait, un chauffeur aussi?
Il dit ouais, le chauffeur c'est pas pour tous les joueurs. Hein.
Ouais, t'as raison.
Il comprend que c'est pas le même.
Il dit ça et après il dit bon, moi je veux pas non plus me vanter.
Tu le vois dans son regard même quand il y a le recruteur que c'est pas, il a pas le même niveau que les autres quand même. Déjà à 12 ans quand même.
Tu l'entends. Ouais, l'entends, il le dit plus tard.
Tu le vois, tu le vois.
Tu le vois. Alors il y a un moment, une date que j'ai noté moi, c'est le 26 novembre 2003. C'est quoi ça? Tu sais ou pas?
26 novembre 2003.
T'es ramasseur de balles au Vélodrome.
Ouais, contre le
Olympique de Marseille, Real Madrid, Ligue des Champions, match retour, le Real des Galactiques, hein, Zidane, Beckham, Figo, R9 sont là. Toi, t'es gamin. Et là, c'est intéressant, c'est le centre de formation. T'as un grand espoir de l'OM et tu en parles devant eux comme un gamin qui rêve encore d'être professionnel.
Ah oui, mais c'est...
Et ça, c'est un déclencheur aussi. Tu dis, mais ça y est, on y est là.
Ouais, mais c'est... Pour moi, on y est parce que je suis sur le bord de la pelouse et je vois le match. Mais je suis tellement loin aussi de penser que dans un an, en fait, je suis sur le terrain en train de jouer devant 60 000. Et de voir Zizou, Figo, R9, là, on était avec Medji, le soir, on est rentré, on a débriefé le match, mais avec des étoiles plein les yeux. Oh, mais t'imagines, oh là là, mais t'as vu l'autre, comment il contrôle le ballon, comment il dribble et tout. Mais c'était, il y avait ce truc-là, c'était extraordinaire. Je sais pas, j'ai des frissons.
C'est dommage, on peut pas tout raconter, mais même l'histoire avec Menacia, c'est dingue.
Ouais.
Qu'en fait, t'as ta chambre, en gros, t'es le petit prince, t'as ta chambre.
Il te voit, il est tout seul dans la chambre quand même. Hein.
C'est vrai. Et ils te mettent, à la base, vous étiez quatre, et du coup,
oui, sinon, je fais ça pour moi.
Privilège.
Moi j'ai un chauffeur, je m'achète.
Ouais. Mais et là ils te mettent un mec comme ça, le gars ça devient ton meilleur pote, c'est ouf quand même.
Ouais, franchement c'est ouf parce que après on a fait tellement de choses ensemble, mais quand il est venu, voilà, ça. Je vois, ils sont sérieux, ils ont mis quelqu'un. Et d'un coup, ça a accroché. Et même quand j'ai eu des moments difficiles, c'est le seul qui a été là et tout.
On va écouter ça maintenant parce qu'il y a aussi, on parlera aussi des 4 saisons à Marseille, savoir comment tu les juges, toi. Il n'y a pas eu de titre, mais quand même beaucoup d'émotions au Vélodrome. Il y a une cassure sur ta dernière saison à l'OM, 18 septembre 2007, match de Ligue des Champions au Vélodrome. Tu racontes dans le documentaire, on écoute.
J'ai joué un match de Ligue des Champions sous méningite. Après le match, je fais 12 jours à l'hôpital.
Il faisait que vomir, le pauvre, c'était horrible. Mais j'ai cru qu'il allait mourir. C'est grave, la méningite.
Et personne n'est venu me voir à l'hôpital.
C'est dans les épreuves qu'on se rend compte qui est là, qui n'est pas là, sur qui on peut compter, etc. Ben là, il a su qu'il pouvait compter sur personne à part nous.
Moi, le football, dans ma tête, c'était mes 12 potes. Mais chacun passe à sa gueule, en fait. Tu sais qui c'est qui est venu me voir? Et que j'oublierai jamais de ma vie, c'est pour ça que c'est toujours mon ami, ce qu'il y a aujourd'hui. Mehdi Benassia. Il était à Lorient ou à Clermont. Et après que j'avais la méningite, il est descendu. Je me souviens quand c'était hier, il m'a ramené à McDonald's pour que je mange. Parce que j'arrivais pas à manger. Moi, si ça avait été l'inverse, je serais allé voir n'importe qui. Je suis quand même de loyal, moi, avec mes amis. Et je vais au bout du monde pour eux. Et j'ai mal pris. Je me suis dit que c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est là que j'ai changé de mentalité un peu.
C'est très fort comme témoignage dans ce documentaire sur Canal+. Samir, c'est pas une cassure, mais c'est en tout cas pour toi un moment de bascule. Tu comprends quel est ce milieu à ce moment-là, quoi.
Ouais, parce que j'étais encore insouciant à l'époque. Kevin peut aussi en témoigner. Il n'y avait pas autant d'engouement avec les réseaux, avec les parents qui pensent que leurs enfants vont être
tickets d'euros
millions pour eux, qui va leur changer leur vie. Ce n'était pas comme ça. Et donc, pour moi, on était tous là, on était tous pop, même au centre de formation. Il y avait de la concurrence, mais ce n'était pas, exacerbé comme ça l'est aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était, ouais, j'arrive, tout va bien. Et en plus, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas connu de coup dur en fait, dans ma carrière, que ce soit un jeune... ou même mes débuts en pro, c'était idyllique en fait, tout s'était toujours très bien passé. Donc j'étais pas préparé à ce genre de choses. Et là, il y a comme joueur, c'est Mehdi Benassia et les gens du club qui ont toujours pris des nouvelles, qui ont appelé mes parents quotidiennement. C'est Pape Diouf, paix à son âme, et Louis Acariès qui s'occupait à l'époque de qui était dans le board et qui était là pour remettre un petit peu de l'ordre au club.
Pas de joueur.
Pas de joueur.
Pas de coéquipier.
Est-ce que ce que tu dis aussi, et là c'est ta sœur qu'on a entendu, tu disais que notre génération, même si moi j'ai pas joué à l'OM, mais je suis parti à l'étranger, moi ma mère en fait elle voulait pas que je devienne footballeur. Ouais. Quand je suis parti à l'étranger, elle a pleuré ma mère, le jour où je suis parti. Parce que eux, les parents, ils s'inquiètent. En tout cas, les parents de ma génération, j'ai l'impression qu'ils étaient plus inquiets, justement, de...
Et encore, t'es parti tard, toi. Hein,
moi, je suis parti tard.
Samir a 12 ans, il était au centre de formation.
Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui... leurs parents, ils savent pas s'ils le mettent en centre de formation. Et ta mère, d'ailleurs, je crois qu'ils voulaient le prendre un an avant. Ouais. Et elle a pas voulu. Mais c'est ce qu'on voit aussi, tu vois, quand t'es... Mais d'ailleurs, j'ai une question. Du coup, il y a un de tes frères qui a été médecin ou sœur ou...
Non, parce ils ont fait des études, ils ont eu leur master, truc, aujourd'hui.
Mais pas de médecin.
Non, pas de médecin. Ah, okay. Non, mon frère, il a fait des études et lui, il y en a un qui est spécialisé dans l'histoire et l'autre, il est dans l'éducation nationale. Ils n'ont pas...
Parce qu'elle voulait vraiment un médecin. Donc.
Elle essaie avec mon fils. Là.
Okay. C'est
vrai. Elle essaie avec mon fils. Mon fils, il est comme moi. Il a dit non, moi, pas mamie, je vais être footballeur. Et après, quand je finis, ben là, je serai docteur pour faire plaisir.
Démarrer à 30 ans, à 35 ans, les médecines, c'est dur. Finir à 45 ans.
Parce qu'on ne va pas tout spoiler, mais la fin du documentaire, elle est quand même très émouvante.
On ne va pas le dire, ça, parce que c'est le moment aussi du documentaire. Ça raconte aussi ton évolution en tant qu'homme, Samir. Je reviens à Marseille. Tu arrives dans une équipe qui a de la gueule sur le papier quand même, de Mamad Niang, Franck Ribéry, Djibril Cissé. T'es bien accueilli ?
Très bien.
Très bien accueilli. On le voit dans les images.
Très, très
Franck bien. Franck Ribéry est nickel avec toi.
Ouais.
Tout le monde est nickel.
Top, top, top. On était inséparables. Franchement.
Inséparables dans la blague, dans la connerie aussi
dans tout. Dans tout. Franck, Mamad, Djibril, vraiment. En plus, on jouait tous les quatre... devant. Non, franchement, il y avait une vraie alchimie entre nous. Le seul regret, c'est que voilà, on perd contre Sochaux en finale de Coupe de France. On va dire que Lyon était intouchable à ce moment-là, mais au moins on peut prendre au moins deux Coupes de France, que ce soit le Paris et Sochaux.
C'est des très belles années, ça, pour toi, l'Olympique de Marseille.
Comment tu les qualifies?
C'est là où t'as le sourire, en tout cas.
Parce qu'il y a beaucoup de générations.
T'as souvent le sourire sur les vidéos.
T'as raison. Ouais. C'est vrai, ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors qu'avant, après, j'ai l'impression que on voit, peut-être c'est moins d'inside, mais je me suis dit, ouais. Bon, forcément, t'es Marseillais, t'es à l'OM. Il y a des mecs qui sont.
Il y a une joie d'enfant.
Mais t'as cette insouciance, et peut-être après l'histoire de la méningite, etc. Mais,
après, c'est plus
mais ça se voit en tout cas dans le documentaire.
Dans le documentaire, c'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup.
C'est vraiment, ça reflète vraiment la réalité de comment tout s'est passé et le déroulement même après.
Parce qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui te disent qu'ils ont préféré cette génération-là qui n'a pas gagné de titre plutôt que même celle d'après avec Didier Deschamps.
2010, qui est champion.
Mais que cette génération-là là, les a vraiment marqués parce qu'il y a des joueurs iconique et qu'ils étaient vraiment attachés à votre bande. Toi, tu le ressens, toi, avec le recul, on te le dit souvent.
Je le ressens, franchement, je le ressens. Et en plus de ça, les mecs qui étaient là, c'est des mecs qui étaient vraiment attachés au club et au maillot. Djibril, c'est un joueur qui est de la région. Mamad, c'est devenu un Marseillais d'adoption. T'avais Loric Sana aussi derrière qui avait beaucoup les valeurs, qui représentait beaucoup les valeurs des supporters et compagnie. T'avais Abibay aussi qui était là derrière. C'était une équipe avec beaucoup de joueurs de caractère et sur le terrain, on essayait de donner le maximum.
Et Pape Diouf aussi.
Ouais, Pape Diouf en tant que président. C'était la grande classe. Moi, je l'ai eu comme agent et après, j'ai connu comme dirigeant. Et franchement, c'était la grande classe.
Il te manque un truc quand même sur les 4 saisons à Marseille ou pas? Un titre, évidemment. C'est ça.
Ouais, le titre de à Marseille, l'engouement, c'est exagéré. Mais j'aurais aimé, tu vois, gagner un trophée, aller sur le port, le fêter avec les supporters. Ça, ouais, c'est quelque chose que je regrette.
T'as ressenti la pression à Marseille parce que là, c'est le grand débat à la mode hein, sur les dernières années, c'est trop dur de sortir du centre de formation. Toi, j'ai le sentiment que t'avais une insouciance sur le terrain dès tes débuts et qu'à aucun moment tu l'as ressenti.
Non, j'ai jamais ressenti ça. Après, j'ai eu de la chance. Il faut être honnête, même si le talent était là, mais j'ai eu de la chance d'avoir comme premier entraîneur en pro José Anigo, que j'avais connu au centre de formation avec la CFA. Il m'a lancé en CFA, j'avais 14 ans, mon premier match en CFA, que j'ai connu à 9 ans lorsque j'ai signé à l'Olympique de Marseille, puisqu'il était entraîneur des Benjamins. Donc ça, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis enfant. Donc quand il était là, entraîneur des pros, avant de rentrer contre Sochaux, il ne me dit pas « bon, fais une bonne entrée tranquille ». Non, il me dit « prends le ballon, dribble tout le monde », parce qu'il m'a vu le faire quand j'étais jeune. Et donc, quand tu rentres et que tu as le soutien du coach, tu sais très bien que tu peux vraiment te lâcher. Est-ce qu'avec un autre entraîneur, j'aurais eu autant d'insouciance ? Je peux pas me prononcer, mais j'ai eu de la chance d'avoir José Anigo comme entraîneur.
On en a beaucoup débattu avec Kevin, notamment sur Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Nous, on le sent dans le documentaire que, bon, je sais pas si la pression, elle est véritablement sur toi, mais en tout cas, en dehors, quand Benatia en parle, notamment quand on dit, ouais, tu vas aller dans la chambre du crack, lui, c'est, on en a un tous les 25 ans, que t'as des privilèges. Est-ce que, si ça marche pas pour toi, à un moment à l'Olympique de Marseille, si ça prend pas, bon, il y en a qui diront, bon, lui, le petit prince, là, en fait, finalement, c'est une fraude. Tu vois, j'ai l'impression que finalement, toi, à aucun moment, tu l'as.
Le plus dur, c'est aussi les comparaisons avec Zidane, je pense.
Ouais, non, ça, c'est très dur. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est à l'époque, il n'était pas dirigeant, c'était mon agent, c'était Pape Diouf. Il m'avait expliqué un truc, mais vraiment tout bête, mais qui fait sens. Il m'a dit, tu es là. Les autres joueurs de ta génération, ils sont là. Si tu travailles autant, voire plus qu'eux, ça va rester comme ça.
Tu auras toujours une avance.
Tu auras toujours ton avance. Maintenant, si tu travailles moins, tu te reposes sur tes lauriers parce qu'on dit que tu es bon, parce que tu es international français, ce que tu veux, le joueur qui est là, il va travailler plus, il va venir ici. Et demain, un dirigeant, il va choisir celui qui est plus bosseur que celui qui est talentueux. Mmh. Et quand j'étais jeune, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Il a raison et j'ai travaillé. Donc pour moi, je ressentais pas cette pression. Je me suis dit, je travaille plus qu'eux, je suis meilleur qu'eux, mais je vais jouer ici.
Donc le talent, oui, mais le travail, tu travailles beaucoup.
Mais c'est obligatoire. Il y a pas de talent sans travail. Non. Oui, ou alors c'est éphémère. Tu as un prime d'un an ou de deux ans, mais tu peux pas perdurer au très haut niveau si tu travailles pas.
Voilà pour Marseille. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France avec Samir. On va parler aussi de la première ligue. Hein. C'était pas un championnat qui te faisait rêver. Ça aussi, je l'apprends dans le documentaire. C'est intéressant. Tu diras quel championnat te faisait rêver à ce moment-là. Et puis, deux, trois questions aussi sur ton avenir. Peut-être, pourquoi pas un jour au bord d'un terrain. Reste avec nous, Génération After RMC. Samir Nasri est avec nous. Kevin Diaz, Walid Acharchour aussi. 20h42, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et notre invité ce soir sur RMC, Samir Nasri. Alors Samir, après Marseille, après tes débuts à l'OM, tiens, la Première Ligue, t'as fait 9 saisons en Angleterre. D'abord Arsenal, bien sûr. Pourtant, toi, l'appel, étudier un documentaire sur Canal, ça te faisait pas rêver forcément.
Pourquoi ? Non, à la base, parce que je pense, à la base, le football anglais n'est pas adapté à mes qualités. Je parle dans les années 90, c'était beaucoup de kick and rush, c'était du jeu direct. Et moi, mes qualités, c'est plus le jeu au sol et technique. Donc, j'ai toujours été attiré par le championnat espagnol. Et fin des années 90, la première ligue de l'époque, c'est le championnat italien. Les grands joueurs, ils jouent tous dans le championnat italien. Et après, avec l'arrivée d'Arsène Wenger et les Frenchies, que ce soit au départ le doublé avec Nicolas Anelka et compagnie, et après l'arrivée de Henri, Pires et Evira Arsenal, m'a fait changer un petit peu d'opinion sur le football anglais.
Et là, tu fais une rencontre, j'ai envie de dire, ta rencontre footballistique à Arsenal. Il est espagnol, il a 22 ans, il est capitaine de l'équipe, il s'appelle Cesc Fabregas. Kevin Ismar, déjà, parce qu'il kiffe évidemment le joueur. On a le sentiment là que c'est presque le coup de foudre technique, quoi.
En fait, on se connaissait parce que on gagne le championnat d'Europe des 17 ans contre l'Espagne et il y avait Cesc qui était là. Et en fait, on était tous dans le même hôtel. Et tous les jours, on jouait à la PlayStation ensemble. Parce qu'on avait un joueur de notre équipe, en équipe de France, qui était le fils de Jacques Songo, Franck Songo, qui était au Barça. Et donc, il allait tous les jours dans leur chambre et j'allais avec lui et on jouait à la PlayStation. Donc, on se connaissait un petit peu. Et quand je signe à Arsenal, de suite, les premiers entraînements, le mec, il est techniquement, il est au-dessus, c'est un passeur. Honnêtement, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs dans ma carrière. Pour moi, c'est le meilleur passeur avec qui j'ai joué, et de loin. Et donc, on avait une certaine attente, parce que Arsène Wenger, il aimait bien avoir deux meneurs de jeu dans son équipe. Un plus bas, c'était Cesc, et moi, un peu plus haut. Et donc, il y a eu cette, de suite, cette petite, ces petites connivences au niveau footballistique. Et moi, je me suis vraiment épanoui avec lui.
Et avec Arsène Wenger aussi, qui parle très bien de toi dans le documentaire.
Non, mais lui, voilà, lui, c'est la grande classe. Lui, il a joué le rôle de père. C'était important pour moi de ma première expérience à l'étranger dans un club, un top club qui joue la Ligue des Champions chaque saison, qui se qualifie toujours après les poules, mais d'avoir un entraîneur français qui puisse me comprendre. Et lui, il a tenu toutes les promesses qu'il m'avait faites lorsque j'étais à Marseille. Il m'a aidé dans ma vie personnelle, il m'a aidé à m'installer. Tous les jours, il me demandait de mes nouvelles. Il y a eu ce lien. Moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif, et mes meilleures saisons, je les ai toujours fait avec un entraîneur avec qui je n'étais pas en conflit ou qui aimait le conflit. J'aimais bien avoir un entraîneur. Je suis bon, il me le dit, mais si je ne suis pas bon, il me le dit, qui est juste. Et j'ai adoré bosser avec Arsène Wenger.
Vous ne gagnez pas pendant 3 ans à Arsenal, et là tu pars à City. Et ton titre, tu vas le chercher en 2012 lors d'une dernière journée historique. C'est soit vous, soit United qui bat Sunderland 1-0. Vous êtes mené 2-1 par QPR, Queen's Park Rangers, avec un but de ton pote Djibril Cissé en plus.
Ouais.
Et en 2 minutes, dans le temps additionnel, vous renversez tout. Dzeko égalise, et évidemment, la suite, on la connaît.
Balotelli, Aguero.
T'as des frissons ou pas? T'as des frissons, tu regardes ton bras, Samir. C'est quand même l'un des commentaires les plus connus de l'histoire du foot.
Ouais.
C'est Aguero!
Non, mais même ce qu'il dit après. Il dit, je jure que vous ne verrez plus jamais ça de votre vie.
Et on l'a pas revu.
Ouais. Mais c'est complètement dingue.
On l'a pas revu.
Avec le téléphone Manchester United de l'autre côté contre Sunderland, c'est ça?
Ils sont déjà en train de fêter quasiment le titre.
C'est fou.
Là, t'as 24 ans, t'es champion d'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce moment-là, parce que toi, tu n'y crois pas quand t'es mené 2-1.
Non, j'y crois plus du tout, parce que on avait, si on se souvient un petit peu de la chronologie de ce championnat, il y a à cette journée de la fin, on a 8 points de Manchester United. Par un concours de circonstances, on arrive à revenir à 3.2. 3 matchs avant ça, on les joue à domicile, on gagne 1-0 sur un but de Company sur une tête. Donc on est ex aequo, on a 2 matchs. Il nous reste 2 matchs, il nous reste Newcastle à l'extérieur. On se dit, c'est le match traquenard, si on le gagne, on est champion. On gagne 2-0, il y a Touré mais un doublé. Et on reçoit QPR qui a 70% de chances de descendre. Donc on se dit c'est tranquille, c'est la fête. Mais sauf que on a beaucoup de très très bons joueurs dans l'équipe, mais pas des joueurs habitués à gagner. Et donc le dernier tir pour transformer l'essai, c'est compliqué quand il y a cette pression là, il y a un engouement. Le Manchester City avait pas gagné de titre pendant 44 ans, donc c'est aussi c'est lourd, c'est difficile. Et on commence bien le match, on mène 1-0, Yaya se blesse, et la mécanique est un petit peu enrayée, et là on prend 2 buts coup sur coup, et dans ma tête j'étais en train de me dire, non mais c'est pas possible, je suis maudit, je vais jamais rien gagner, c'est pas possible. Et là Dzeko marque le 2-2, et je te jure, il marque le 2-2, et je me dis, eh, comme par hasard on marque maintenant, et je vais avoir, on a perdu quand même. Et là il y a Agüero qui fait son truc, et quand il y a, même au moment de l'action, quand il le tacle, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais il tombe, parce que c'est Taïwo en plus qui lui met le qui fait faute sur lui. Et là il marque
Taïwo en plus, j'aime bien.
Mais ouais, non, parce que j'ai joué avec lui.
Tu connais, ouais.
Et pourquoi il tombe pas?
Parce qu'il sait que s'il tombe, c'est Balotelli qui va tirer le pénalty.
C'est vrai.
Ah oui.
C'est bon, ça.
Attends, le héros, ouais. À jamais, c'est Balotelli, c'est plus Agüero. Et là, il a changé l'histoire. Il est resté debout, il a mis au fond.
Ah, c'est pour ça qu'il a.
Je te le garantis.
T'as préféré le quotidien avec Balotelli ou avec Agüero à City?
Ah, c'est différent, tu t'amuses plus avec Mario. Tu t'amuses plus avec Mario.
Peut-être que tu gagnes plus avec Agüero, par
ça c'est sûr.
Raconte-nous Agüero, c'était comment de jouer avec lui, parce que bon là aussi on est sur une légende.
Agüero c'est une légende, mais je trouve que c'est une légende en Angleterre et compagnie, mais je pense que pour moi il est même un petit peu sous-coté par rapport aux joueurs que c'était. Franchement, il était explosif. Et sur le petit périmètre, il est capable d'éliminer dans une cabine téléphonique, et c'était clinique devant le but. Vraiment, c'était bon, très bon joueur, Et très bon mec, en plus de ça, très bon mec. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer mon idole. Il m'a ramené Maradona, donc franchement, Sergio Agüero, c'est 20 sur 20.
Il lui a manqué 2-3 images avec l'Argentine et en Ligue des Champions, peut-être.
Ouais, un petit peu.
Mais parce qu'en France, c'était exceptionnel.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu fais un choix qui est quand même très contesté, parce qu'à l'époque, Manchester City, c'est un peu comme le PSG quand le Qatar arrive, ou même là, quand les Saoudiens arrivent à Newcastle. En plus, t'as Manchester United. C'est marrant parce qu'en fait, t'as un peu la même phrase que quand Van Persie quitte Arsenal. Oui. Il dit je pars parce que je veux gagner. Oui. Et toi, tu le dis aussi, tu pars parce que tu veux gagner. Et ça se joue à pas grand chose, mais tu gagnes. Mm. Et derrière, je pense que ils te demandent alors tous ceux qui t'ont critiqué.
Ouais. T'as été traité de mercenaire.
Ouais, j'ai été traité de mercenaire par des consultants et surtout certains avec qui j'ai joué que j'avais appelé justement. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'arrive pas à le comprendre. Et ça m'avait fait j'avais un petit peu vacillé au départ. Mon choix se portait sur Manchester United quand les deux clubs sont venus. J'avais rencontré Alex Ferguson à Paris. On s'était vu, on avait discuté. Son projet de jeu, ça m'intéressait énormément. Et après, Jean-Pierre Bernès et Alain Migliaccio, on devait prendre notre décision et on a discuté. Ils m'ont dit bon, écoute, United, l'année passée, ils font finale de Ligue des Champions et ils sont champions d'Angleterre. C'est un club mythique. Tu peux aller là-bas et tu seras passé à Manchester United.
Un parmi tant d'autres.
Par contre, de l'autre côté, l'équipe, elle vient de gagner la FA Cup l'année d'avant. C'est une équipe qui sont en train de construire. C'est un projet solide. Les mecs qui sont derrière, ils veulent vraiment faire quelque chose de sérieux. L'année d'avant que je signe, ils font venir dans le même mercato Jérôme Boateng, David Silva, Yaya Touré. Et Kolarov, il y avait déjà Tevez, il y avait déjà Compagnie. Et là, sur le début de saison, ils prennent Agüero, Clichy, et ils essayent de me faire un petit. Franchement, je pense que c'est l'équipe de demain. Tu devrais prendre en considération. Et après réflexion, je me suis dit, et ils ont raison. Mais on va là-bas et on va essayer de gagner. Et bon, après, j'ai de la chance, on gagne la première année.
Et financièrement, il y avait un vrai gap entre les deux ?
Pas énormément.
Il y avait le salary cap, non, à Manchester United à l'époque ?
Non, mais il y avait un salary cap à Manchester United où c'était Alex Ferguson numéro 1 après le reste des joueurs. Et en fonction des années passées au club et des preuves que tu as fait, il y avait ce truc-là. Mais même Arsenal me donnait un très, très, très gros contrat à l'époque. Et ouais, c'était une différence de, je crois, peut-être 500 000 à l'année. Mais sur les sommes qu'on parle, ça, c'était rien du tout, quoi.
Et alors, Leonardo t'a appelé aussi.
Oui.
À ce moment-là. Pour te demander si tu voulais venir jouer au PSG.
Non, d'abord, il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan.
Ah !
Il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan, donc on discute sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui, 2 ans auparavant, fait le triplé avec Eto'o, Schneider et compagnie. Et il m'appelle pour l'Inter, et le courant passe super bien, on discute. Et d'un coup, il me rappelle une autre fois pour me dire « Arrête de discuter avec l'Inter. Fini. » Comment ça ? Il me dit... T'inquiète pas, il y a quelque chose qui se prépare, je vais t'appeler pour ça.
Ah, il est bon, Leonardo. Hein.
Et après, il m'appelle pour me dire qu'il devient directeur du foot au PSG. Et il me parle de Paris. Et je lui dis non, là, Léo, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et Arsène qui me dit de son côté, mais va au PSG. Il veut pas que je parte en Angleterre, il veut pas au PSG. Je lui dis, mais c'est pas possible, coach. Non, je peux pas faire ça.
T'aurais pu être le pastoré, en fait.
Ouais.
Quand Pastore arrive, il...
Ah, c'est ça,
ouais.
C'est bon, ça. Non, mais là, c'était pas possible.
Non, ben, non, c'est pas possible. Possible.
Beaucoup l'ont fait,
ouais,
Kevin.
Là,
il se tue.
Ouais,
non.
T'aurais mal vécu que Zizou prenne le PSG il y a 3 ans, là ?
Non.
On en parlait ? Tu l'aurais compris ?
Ouais. C'est pas pareil.
Entraîneur, c'est pas pareil.
Il est Marseille, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas joué à l'OM. C'est entraîneur. Donc quoi, on va en vouloir aussi à Laurent Blanc parce qu'il a entraîné le PSG alors qu'il a joué à Marseille. Non, sur ça, non. Par exemple, Peter Luxin, quand il fait le chemin Marseille-Paris, je lui en veux. Il est de Marseille, il a joué à l'OM, il est parti. Mais Zidane, non. De toute façon, Zidane, il est intouchable pour faire ce qu'il veut. Tout le monde va lui pardonner au final. Hein.
Samir Nasri est avec vous. Tu restes encore quelques minutes avec nous, avec Kevin et avec Will. J'espère que tu passes un bon moment. C'est Génération After, c'est RMC. Ton documentaire sort dimanche soir à 21h, réalisé par Marc Sauvourel. Reste avec nous, la suite, on va parler des Bleus un petit peu, puis ton rôle de consultant aussi, et tiens, la liste de Deschamps, ce que tu penses des choix du sélectionneur. Reste avec nous, Génération After RMC, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 22h, Génération After.
RMC.
C'est pas ne pas haïr, c'est aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'on peut avoir des coachs qui puissent faire passer des câbles, faire progresser des joueurs de matière première?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Oueda Cherchour, avec Samir Nasri, on a deux machines à jingle ici.
Il y a une vraie machine. Puis y a
franchement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit medley d'ici la fin de l'émission pour que Samir écoute le top 3 à Walid. Prépare-nous ça, s'il te plaît, Polo.
Top 3, c'est un top 10.
Non, mais il y en a 3 qui sont
dessus.
Franchement, c'est un top 5.
Il y a les Aristochats. Est-ce qu'on a les Aristochats ou pas là? On l'a ou pas, Polo? Tu peux le sortir tout de suite? On se marre deux secondes. Il va me le trouver, le jingle Walid, les Aristochats. Bon, Samir Nasri.
Là, ça va faire du podcast, là, quand même. Cette soirée génération.
Parce que t'es là, c'est ça? Tu veux dire ça?
Ben, bien sûr.
Pour qu'il reste jusqu'à 22h, surtout.
Ouais. C'était pas prévu.
C'est sûr, ça?
Alors, il va essayer, quoi.
Samir, tu restes un peu avec nous. Ouais, on est bien, là.
Problème. Ouais, là, je suis bien.
T'es bien, t'es bien, la vérité. Bon, alors, les gars. On écoute les Aristochats. Écoute, Samir, écoute bien.
Oui.
On écoute.
Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens, là?
Les Aristochats. Et bon, c'est un classique.
Excellent. C'est pas du troll en plus.
Non,
hein.
Pas du tout.
Mais c'est lequel,
pas du tout.
Mais c'est lequel que tu...
Parce qu'il y a un chien dans les Aristochats. Il mange des spaghettis.
Ouais.
Ouais. Donc j'ai pensé à ça.
C'est pas totalement faux.
On sait pas de quel dessin animé il parlait du coup.
Ben, je sais pas non plus.
Rocky,
c'est Rocky,
mais oui, c'est Rocky en plus.
Mais en plus,
j'ai dit
n'importe quoi.
C'est Rocky. Désolé.
On apprend
aussi que c'est un nouveau jingle, ça.
On aura Samir en jingle, c'est bien dans Génération After. D'ailleurs, tu racontes, c'est Mehdi, hein. On parlera Mehdi aussi dans un instant, qui raconte que dans la chambre que vous partagez à Marseille, tu te shootais au Parrain, à l'Impasse, à Scarface. Tu les regardes encore aujourd'hui?
Ouais, je suis cinéphile.
T'es cinéphile?
Ouais.
Cinéma américain, sincèrement?
Ouais. Non, je peux regarder cinéma étranger. Des fois, je suis tombé sur des films européens qui valaient le coup. Mais je suis cinéphile, série, je regarde.
Du coup, c'est bon maintenant la VO?
Oui.
Mais ça va être parce que Wally, tu peux pas regarder à main.
c'est pas possible.
Meilleure série all time de Samir Nasri?
Les Sopranos.
The Wire, non?
The Wire en deuxième.
Breaking Bad.
Ah, tu vois, The Wire.
C'est pas mal, hein? Top 5, oui.
The Wire deuxième.
T'es plus Tony Montana ou Michael Corleone?
Michael Corleone.
Bien sûr.
Tous les jours.
L'évolution, ça, on aime.
Oui.
Bon, il finit bizarre quand même, mais quand
non,
même.
Non, mais même le mec qui est tiraillé, qui veut pas faire partie de ce truc-là, et qui, par rapport à l'amour de sa famille, est obligé de faire des choix dans.
Puis le changement physique, c'est
aussi, ça, oui.
Impressionnant. Bref, on a un extrait du Parrain, tiens, pour Samir.
Et c'est le rôle principal, il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer, j'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, Parrain, je sais pas quoi faire.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Johnny Fontaine qui prend une claque.
Oui.
Magnifique moment. Voilà pour le Parrain. Alors l'équipe de France, on a commencé à en parler tout à l'heure avec Kevin et Walid. Je pense que ça reste pour beaucoup un regret. 41 sélections.
Un gâchis.
Il y a quelques frissons, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Et même, là on va le dire, hein, tu n'as pas toujours mis du tien. Certainement, on a parlé du bus, mais ça c'est un épisode qui a été assez vite balayé. Ça a pu atteindre ton image. Mais bon voilà, tu arrives en équipe de France, première sélection. 28 mars 2007, France-Autriche, Stade de France. Dernier match, Ukraine-France, 15 octobre 2013. Barrage pour le mondial, défaite 2-0, c'était pour aller au Brésil. Au milieu, il y a 5 buts, 1 euro 2008 pourri pour tout le monde, pas que pour toi, et pas mal d'incompréhension. Comment tu qualifies ta carrière en bleu, toi, ça? Il parle de gâchis, Walid. Est-ce que c'est fort ou pas pour toi?
Non. Je trouve qu'elle n'a pas été à la hauteur de mes prestations en club, mais je n'ai jamais réussi à réellement trouver ma place et à pouvoir m'exprimer de la manière dont je pouvais le faire en club. Le début était idyllique, parce que première sélection, je fais passe décisive, troisième sélection, je marque et compagnie, mais après, mis à part quelques prestations qui pour moi étaient bonnes avec Laurent Blanc, j'ai jamais eu vraiment un coach derrière qui m'a vraiment donné les clés pour que je puisse m'exprimer. Mais je pense que voilà, c'est moi aussi, j'ai pas fait les choses que je devais faire.
L'Euro 2008 sur Raymond Domenech, hein, c'est Qatar, on l'a dit, t'es pas convoqué.
Il rentre contre l'Italie.
6 minutes avec le carton rouge là.
Le carton rouge de Eric Abidal. Je suis remplacé par Jean-Aimé Boumsong.
T'es pas convoqué pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Ça, c'est une de tes grandes réussites dans ta carrière, je pense. Franchement,
oui.
Mec,
oui.
Je me mets à ta place. D'ailleurs, t'en parles dans le
dos. C'est sa meilleure compète.
Là, tu frises les moustaches. Tu fais allez-y, les gars, tranquille. Ah, oui. Moi, je suis bien chez moi en vacances.
Ah, oui.
C'est ça.
La vérité, quand ça s'est passé, j'ai eu. Je l'ai mal vécu. Arsène Wenger m'appelle à la minute où c'est annoncé la liste. Il me dit, tu vas avoir 8 semaines de vacances. Recharge les batteries, tu reviens la saison prochaine, tu casses tout. Et j'ai fait 4 semaines de vacances. Après, je suis rentré, j'ai trouvé ça trop long, les 8 semaines. Je me suis préparé et je réalise une très très belle saison juste après. Et avec tout le tralala qui s'est passé durant la Coupe du Monde, ouais, j'étais en train de fêter ça, en train de me dire, pour tranquille, j'y suis pas, on ne pourra pas dire.
T'imagines si, ouais, si en plus il y avait été, mon Dieu. Ouais.
moi, le gros regret.
Pour la plupart des gens, il a été. Donc,
on le dit ce soir, hein, Samir Nasri n'était pas un Aïssna.
Il n'était pas un Aïssna.
Voilà.
Le gros regret.
Il a laissé la place à Thierry Henry.
Exactement. Moi, le gros regret, vous savez ce que je pense de Samir et de sa carrière. Et je disais tout à l'heure, avec Gilbert, je me battais pour dire qu'en club, avec David Silva ou avec Fabregas, c'était exceptionnel et qu'en équipe de France, il n'arrivait pas à retrouver ce niveau-là. C'est l'Euro 2012, parce que l'Euro 2012, déjà avant l'Euro 2012, il y avait eu des matchs contre le Brésil, contre l'Angleterre à Wembley avec Gourcuff, où il jouait à deux numéro 10 avec Laurent Blanc. Je trouvais que déjà il se rapprochait de son meilleur niveau. Et t'as un peu l'avènement de la génération 87 à l'Euro 2012. Et moi, j'ai 16 ans à cette époque-là. Je me dis, mais ils vont tout casser. Et t'as ce premier match. Bon, t'as l'égalisation contre l'Angleterre. Avec ce qui en
avec derrière, suit. Je le dis pour ceux qui ont oublié. Tu marques, célébration, ferme ta gueule, dirigé vers la tribune de presse.
Il faudra y revenir juste après. Derrière, t'as le match contre l'Ukraine où Jérémy Ménez, il fait un match de dingue, là, avec, il y avait quoi? De la pluie, de l'orage pendant une heure. Et derrière, t'as la défaite contre la Suède avec le but d'Ibrahimovic. Et tu joues contre l'Espagne, tu joues pas, et on te préfère Debuchy, Réveillère, etc. Et finalement, ça se termine comme un gâchis. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que t'as un peu les clés. En tout cas, Laurent Blanc te fait confiance. Et au final, ça se finit mal à cause de cette réaction, peut-être, c'est toi qui vas nous le dire, contre l'Angleterre. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là, bon, après, il y aura l'Ukraine, et avant l'Ukraine, t'avais retrouvé le match contre l'Australie où t'étais numéro 10, t'avais retrouvé un semblant en équipe de France de crédibilité, même de niveau, mais c'est l'Euro 2012 où je pense que vous pouvez vraiment tout casser, et toi le premier.
Mec, si on refait le film de l'Euro 2012, premier match contre l'Angleterre, on fait le match nul, mais je suis homme du match. 2012 contre l'Ukraine, on fait un bon match, une bonne prestation, on gagne. On commence contre la Suède. On perd le match contre la Suède, mais dans le groupe, c'est le feu. C'est le bordel. La journée du match de la Suède, c'est un bordel complet.
Pourquoi ?
Après le pour des trucs, mais vraiment.
Des embrouilles entre joueurs, ouais, des tensions
joueurs, les femmes qui arrivent, il y a des tensions entre les joueurs. On fait le match contre la Suède, on perd, et à la fin du match, il y a des incidents dans le vestiaire, pas physiques, mais des incidents par la parole, oui, et prise de position. À la fin du match, je demande à Laurent Blanc de faire une réunion avec tous les joueurs pour essayer de calmer la chose. Parce qu'on a un quart de finale qui arrive. Après, je pense que quart de finale ou pas, même si tout le monde avait été bien, tout ce que tu veux, on tombe contre l'Espagne. L'Espagne était injouable à ce moment-là.
C'est pour ça que le match contre la Suède était hyper important, parce que tu pouvais éviter l'Espagne en gagnant.
Oui, mais quand tu connais vraiment, si tu avais été dans le groupe, on ne pouvait pas le gagner le match contre la Suède, c'est pas possible. Tout le monde était à droite et à gauche et personne ne pensait au match parce qu'on était déjà qualifié en gros. Donc franchement, c'est là que ça se passe. Et tu joues l'Espagne, bon, l'Espagne il joue à la baballe avec toi. Je suis pas là dans ce match-là parce que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, ils pensent que le côté gauche de l'Espagne c'est le côté fort, donc ils décident de renforcer un petit peu ce truc. Mon entrée elle est pas bonne. Parce que déjà, je suis déçu de ne pas débuter le match, c'est la vérité. Et 2013, on commence la saison en fait en équipe de France. Je suis déjà suspendu, 3 matchs. Il y a le match amical contre le Japon et match de qualif contre l'Espagne. Et Didier Deschamps ne fait pas appel à moi parce qu'il veut pas qu'il y ait un engouement médiatique avec mon retour en sélection. C'est, je crois, c'est la première. C'est quand Paul prend le carton rouge ce match-là.
2-0 là. Première de Varane et de Pogba.
Ouais. Et donc il y a ce truc-là, je le prends mal. Et pendant un an, je viens plus en sélection. Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Je refuse de la faire. Je dis que je suis blessé, alors que j'ai rien du tout. Mais je veux pas la faire. Et je reviens petit à petit en équipe de France. Mais à partir de ce moment-là, en fait, je viens parce que je suis sélectionné. Mais ma tête, elle est plus là. Parce que, en fait, comme je le dis dans le documentaire, tous mes faits et gestes sont épiés. On regarde tous les comportements. Oui, non, mais là, il est arrivé comme ça. Non, mais là, il avait son téléphone. Non,
oui,
mais
t'es en retard de 3 secondes, on te fait payer.
Et ça me plaisait pas, en fait.
Bon, et Deschamps succède à Blanc. Là aussi, ça passe pas très bien. Ça passait mieux avec Laurent Blanc pour le coup. Mm-hmm. Titulaire sur le barrage aller contre l'Ukraine en 2013, 2-0. Tu joues pas le retour 3-0 qui envoie les Bleus au mondial. Mais toi, tu restes à la maison. Deschamps annonce sa liste, hein, journal de 20h de TF1. Ouais, là, il fait un truc qu'il a plus jamais fait après. C'est Monsieur Langue de Bois, mais d'un coup, là, la question de Gilles Boulot à l'époque, pourquoi Samir Nasri n'est pas avait...
Monsieur, je coupe du bois, là.
Dans ce
groupe. Parce qu'il y avait un buzz immense autour de l'annonce de Samir, parce qu'il fait une saison incroyable
avec City. Ouais. Il dit, il est décevant en bleu, ses performances sont pas les mêmes qu'en club.
Ça, il avait pas tort.
Et il n'accepte pas d'être remplaçant.
Ça, est-ce que c'est vrai?
Bah, non, il vient de le dire. Mais l'a accepté, non? D'une certaine manière, parce que quand t'es joueur, t'as toujours envie de jouer. Mais après, si t'es dans un groupe, tu pars pour une aventure pendant un mois, ok, pas de problème. À partir du moment où la concurrence, elle est loyale et que si à l'entraînement, je te montre que je mérite de jouer, fais-moi jouer, je l'accepte. J'ai déjà commencé, par exemple, avec des joueurs quand j'étais à City et la concurrence, elle était féroce.
Avec Navas, avec
c'est pas grave, on va te montrer à l'entraînement que je mérite de jouer. Non, mais... Et après, je jouais. Ça, c'est le quotidien de toutes les équipes.
Mais quand
après,
il dit ça, il te tue, là.
Oui,
en fait,
je sais,
là.
Mais après, quand t'es sélectionneur, pour moi, tu dois savoir gérer un groupe, tu dois faire les. Tu fais tes choix. Il a décidé que pour lui, peut-être, j'allais être un problème dans son groupe.
Et ça a été avéré finalement parce qu'il y avait eu un buzz avec, on parlait de livre avec William Gallas, mais autour de ce qu'avait sorti Pierre Ménès, je crois que c'était dans le livre avec Daniel Riolo en plus, je crois, ou peut-être dans son livre perso, où il disait qu'il y avait 3 joueurs entre les 2 matchs contre l'Ukraine qui avaient été voir Didier Deschamps en disant faut le
on
sortir,
veut plus de Samir, ouais.
Faut le sortir, en gros, c'est un poison, quoi. 4
joueurs. T'avais les noms.
Non, et 4 joueurs. Apparemment, et j'en avais parlé avec lui une fois, avec Pierre Ménès, et je lui dis pourquoi tu sors une info comme ça. Il me dit parce que je l'ai eu par 3 ou 4 différentes sources. Quand on est journaliste, il faut toujours vérifier avant de pouvoir sortir une source. Il m'a dit un jour, j'ai eu Hugo Lloris sur le plateau du CFC, et je lui avais parlé. Il m'a répondu d'une manière, en gros, où il m'a confirmé que c'était vrai en me disant ah, t'es bien informé, toi. Et je lui avais demandé. Et lui, il a fait quoi? Il m'a dit non. Hugo, il a dit que lui, il n'allait pas aller voir le coach pour lui dire ça parce qu'il s'entendait bien avec toi et que tu n'étais pas un problème dans le groupe. Et il ne m'a jamais dit c'était qui les joueurs parce qu'il m'a dit en plus, je ne sais pas c'est qui pour être honnête avec toi. Et voilà, après moi, j'ai eu. À partir de 2012, déjà, ma relation avec la presse, elle est cassée. J'ai quand même insulté un joueur, un journaliste. Donc. N'importe quoi que j'allais faire, ça allait être multiplié par 10, par 15. Donc voilà, j'ai décidé après, quand il y a eu la non-sélection pour la Coupe du Monde, j'aurais pu, avec mes saisons encore, espérer et continuer à vouloir jouer pour l'équipe de France. Mais comme j'ai su qu'il y avait des joueurs et compagnie, ouais. J'ai dit, je vais pas faire d'hypocrite et décider d'accepter de revenir à
l'équipe. T'as arrêté les Bleus à 26 ans.
Oui.
C'est ça, à 26 ans.
Juste pour revenir sur l'histoire du ferme ta gueule avec les journalistes de l'équipe, t'en parlais tout à l'heure, tu disais qu'en fait finalement c'était pas que des critiques sur l'équipe de France que tu pouvais accepter, parce que dans le documentaire c'est notamment relaté, ouais. Où on parle uniquement de foot à ce moment-là, c'est plutôt ton choix Arsenal-Manchester City qui t'avait pesé et toute ta frustration sort à ce moment-là.
Ouais, beaucoup de choses, le fait de m'avoir traité de mercenaire lorsqu'on a annoncé que j'étais le joueur français le mieux payé de l'histoire et compagnie quand j'avais signé à City. Il y a beaucoup de regards qui ont changé à ce moment-là. Et le fait de quitter Arsenal, qui pour beaucoup c'est une institution, c'est un top club, d'aller à Manchester City, c'était un choix qui était dicté par l'argent, alors que ça n'a pas été le cas. Si j'avais signé au PSG, j'aurais pris plus d'argent. J'avais l'Inter de Milan qui payait énormément aussi. Et pourtant, j'ai voulu rester en Angleterre parce que je me sentais bien dans le championnat.
Avec le recul, toi qui es maintenant dans les médias, est-ce que tu te dis.
Bon, si un joueur fait ça dans une compétition avec l'équipe de France, comment toi tu réagirais aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut composer avec les critiques aujourd'hui? Surtout qu'entre 2012 et là 2026, il y a l'avènement des réseaux sociaux, tu le vois toi, aujourd'hui, quotidiennement, sur Mbappé, sur pas mal de joueurs. Est-ce que quand t'es un grand, grand joueur, tu dois faire fi de tout ça? Est-ce que tu dois te mettre dans une bulle? Est-ce que toi, à l'époque, t'étais fort, pas assez fort? Comment tu l'analyses avec le recul?
C'est dur. Parce que tu n'es pas à la place des joueurs, de ce qu'ils vivent aussi dans leur sphère privée, parce que la sphère privée, ça, c'est une grosse partie aussi de toi, en fait. Tu ne peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans ta sphère privée en rentrant sur le terrain et dire j'oublie tout, ce n'est pas possible. Tu vois, moi, en 2012, et même dans ma sphère privée, je n'étais pas au top. Ma mère a eu un arrêt cardiaque, ma tête, c'était pas tout beau dans ma tête. Donc forcément, tu as des trucs, tu es là, tu rumines parce que tu es impuissant, tu peux rien faire, ça, c'est un problème médical, je peux rien faire, mis à part essayer d'être là au maximum pour ma mère, je peux rien faire d'autre. Et donc quand il y a un truc ou deux, une personne qui vient, qui parle, qui vient, qui critique, qui parle sur tes choix, sur tes trucs, là, à un moment donné,
Il y a aussi comment tes proches reçoivent
ce truc-là.
Tu dis que ta maman, elle voulait que tu arrêtes l'équipe de France. Alors, déjà bien avant.
Ça, c'était en bleu. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. On disait ton image a été restaurée pour beaucoup de critiques depuis que tu es consultant à Canal. On va le dire aussi parce que certains ont découvert le passionné de foot que tu es. Tu bouffes combien de matchs par semaine?
J'en bouffe entre 15 et 20, hein, au moins.
Autant qu'Walid quasiment, en fait.
Un peu plus, je crois.
Un peu plus même. Tu regardes la Ligue 1 aussi, bien sûr.
Oui.
Tu regardes la Première Ligue?
Oui.
La Liga,
championnat espagnol, championnat italien,
Italie, tu regardes tout.
La Bundesliga.
Très casanier, le garçon.
Très casanier.
Ouais, ouais.
Posé à la maison dans les matchs.
Il a toujours été très casanier.
Non, c'est l'âge maintenant, c'est tous pour ça.
Comment tu fais les soirées avec des champions sur Canal? On avait Habib Bey il y a à peu près un an ici, qui s'est pris des marées, lui, parce que Marseillais, ta génération, ton époque en plus, lui, il commentait les matchs, donc du PSG en Ligue des Champions, donc il a été très critiqué par certains. Est-ce que toi, tu prends des remarques ou pas de supporters parisiens quand tu es en soirée PSG avec des champions sur Canal?
Non, on compte.
Au contraire.
Ouais.
Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques?
Tu leur portes chance.
dans le documentaire, quand City mène 2-0 au parc, t'es content quand même.
Ouais, bien sûr. C'est mon club.
Oui, c'est ton club aussi.
Mais non, franchement, la dernière fois, on avait fait le match sur site, le PSG Arsenal. Je me retrouve à faire des photos au Parc des Princes avec des supporters du PSG. Et chose qui ne pouvait pas se passer quand j'étais joueur. Non, mais j'essaye d'être le plus honnête possible dans mes analyses. Ce n'est pas parce que je suis Marseillais que je dois critiquer le PSG ou quoi que ce soit. Si le PSG est bon, je vais dire que le PSG est bon. Et j'essaye d'être le plus juste possible. Et les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes. Si quelqu'un dit les choses telles qu'il les ressent, on finit par t'apprécier.
Tu aurais préféré, en tant que joueur, être entraîné par De Zerbi ou Luis Enrique?
Waouh, ça, c'est dur. En fait, Luis Enrique, on va dire que j'ai été entraîné par le même que lui, un petit peu, par Pep. Donc, je vais dire De Zerbi. Je vais dire De Zerbi, même si... Je pense qu'on aurait pu se clasher, lui et moi, parce que il est un petit peu quand j'ai vu même un petit peu le documentaire sur YouTube de l'Olympique de Marseille, il me rappelle un petit peu Mancini dans sa façon d'être. C'est des entraîneurs italiens qui sont jeunes, ils sont encore un petit peu joueurs, donc ils sont durs, ils aiment bien titiller les joueurs. Luis Enrique, sur ce que je vois avec ses joueurs, j'ai l'impression quand même qu'il est là, qu'il est un petit peu papa. Je pense que ça aurait peut-être un peu matché un peu plus avec lui.
Desherbie aussi, il est un peu papa.
Tu sens
Desherbie
aussi.
Il est juste mais tu sens de recul et de hauteur.
Il me fait penser à Sampaoli un peu moins, Desherbie.
Oui, mais il réagit beaucoup sur le bord de la touche. Si tu es de son côté, tu fais un ou deux trucs mauvais, tu sais que...
D'où l'anecdote de Martini sur la PlayStation.
Ah oui, c'est un peu la même chose.
Mehdi Benassia, on en a parlé tout à l'heure, c'est encore ton grand pote. Évidemment, lui parfois il dit bon c'est génial mon expérience mais c'est fou, c'est Marseille, c'est particulier. Tu dis dans le documentaire, il y a que Marseille, il y a que Naples aussi peut-être qui peut faire comme Marseille en termes d'environnement et de pression. Tu devrais toi bosser à Marseille, à l'OM un jour.
Ouais, mon rêve absolu ce serait un jour d'être sur le banc de l'Olympique de Marseille, oui. Mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là, j'ai pas de problème au niveau des cheveux, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai peut-être une calvitie qui va commencer à arriver, parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille.
Ça donne quand même envie, quoi, malgré l'environnement, la pression énorme,
malgré
les coups
malgré
tu peux prendre aussi, malgré la semaine qu'on vit encore. Quand tout va bien, ça va pas en fait. C'est ça qui est fou.
Non, c'est vrai, mais après c'est comme ça. C'est Marseille.
C'est Marseille, bébé.
C'est des excès, c'est comme ça. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est toujours comme ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, alors c'était Jacques-Henri Hérault qui disait qu'il faut enlever des supporters marseillais des bureaux, etc., pour qu'il y ait moins de passion. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vois ce qu'il voulait dire quand même. Là, bon, t'as un ancien Marseillais, t'as un Pablo Longoria qui est pas Marseillais, mais qui est complètement possédé le jour des matchs. T'as un entraîneur aussi, moi j'apprécie, mais qui est possédé aussi. Tu vois, on dit qu'il faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Pape Diouf, pour le coup, c'était quelqu'un qui était très calme. Tu vois, qui avait ce calme, cette prestance, sa voix.
Une sagesse aussi.
Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je te dis. C'est cette voix, ce ton posé, ce vocabulaire qui faisait qu'il prenait de la distance. Et c'est peut-être la plus belle période de Marseille que moi, en tout cas, j'ai vue, comme tu disais, avec cette équipe dont tu as fait partie. Des fois, on se demande quand même s'il ne faut pas des gars un peu plus calmes. Même si Mehdi Benassia, il semble calme, mais est-ce que c'est un faux calme? Possible.
Et Samir.
C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est, je pense que si tu n'as pas un entraîneur qui est volcanique et qui a le tempérament à Marseille, il ne sera pas accepté par les supporters. Si on regarde sur les dernières années les entraîneurs qui ont eu du succès auprès du public, c'est Marcelo Bielsa, qui est complètement décalé, en décalé total. Et là, aujourd'hui, De Zerbi, on va dire...
Sampaoli,
mais Sampaoli, c'est pareil. Tudor aussi, c'est pareil. Ils ont eu Marcelino et ils l'ont dégagé directement alors qu'il est en train de réaliser un travail monstrueux à Villarreal. Mais c'est un mec qui est en fait trop calme, trop plat en fait pour l'environnement marseillais.
Sur ton rôle de consultant, tu kiffes ta vie aujourd'hui ?
Ouais, moi je kiffe. Je kiffe aussi parce que ça me permet de jongler entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Moi j'ai mon fils qui est installé qui est à Dubaï. Ça me permet aussi de voyager, d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai pas commencé encore à passer mes diplômes, parce que je sais que si je deviens entraîneur, il y a plus de vie en fait privée ou personnelle. C'est le foot. Et moi, quand je me mets dans quelque chose, je suis quelqu'un d'entêté et je me mets à fond les ballons. Donc c'est pour ça que je prends le temps un petit peu.
Quand tu dis quand je me lance dans quelque chose, je vais à fond. Aujourd'hui, dans ton rôle de consultant, tu fais partie quand même des références. Tout le monde parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des consultants dans les médias? Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, éditorialistes, consultants, avec les nouvelles chaînes, etc.
Tu veux dire quoi par là? Est-ce qu'ils sont assez
qu'est-ce que tu penses de la profession des consultants? Parce que on parle beaucoup de bien.
Des consultants anciens joueurs ou de toute la profession?
Non, consultant ancien joueur.
Ancien joueur
ancien joueur.
Moi, je peux parler de tout.
Non, mais ancien joueur parce que.
est-ce qu'il faut avoir joué pour
tout d'accord? Voilà, c'est ça la question que tu posais. Oui, est-ce qu'il faut avoir été un ancien joueur de haut niveau pour être consultant, un bon consultant?
Pour moi non. Je préfère un passionné qui regarde 20 matchs par semaine plutôt qu'un ancien joueur qui regarde pas du tout le foot.
Un Walid par exemple.
Ouais, je préfère un Walid qu'un consultant qui surfe un petit peu sur sa carrière et qui regarde pas de foot, qui ne suit pas l'actualité, qui ne suit pas l'évolution du football. Le football d'il y a 20 ans, c'est plus le football d'aujourd'hui. Il faut suivre son époque. Et si j'ai un conseil à donner aux consultants, regardez des matchs surtout, pour qu'au moins quand vous parlez de certains sujets, ben vous maîtrisez un petit peu.
C'est quoi la différence entre le football d'il y a 20 ans, la plus grosse différence entre le football d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le football, il s'est uniformisé. Que tous les entraîneurs essayent de jouer de la manière de Pep Guardiola parce qu'ils ont vu que c'était la manière qui gagnait. Pour moi, ce que j'aimais d'il y a 20 ans, c'était un petit peu le choc des cultures de chaque entraîneur. Tu avais un Portugais, il a amené son côté tactique, par exemple. L'Espagnol, il a porté son côté technique. L'Anglais, ben, c'était un jeu plus direct. Quand on jouait, J'ai joué à, par exemple à Bolton, Sam Allardyce, c'était des longs ballons, mais tu savais que tu allais souffrir, tu n'étais pas sûr de gagner en posant le jeu et en jouant. Moi, j'aimais beaucoup ça, je trouve aussi beaucoup plus de créativité et d'instinct chez les joueurs offensifs. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes, elles essayent d'avoir 5 joueurs offensifs pour créer un décalage avec les 4. Il y a beaucoup de possession autour de la surface. Je trouve qu'il y a un peu moins d'engagement de la part des joueurs et tous les joueurs se ressemblent un peu dans la même position, c'est tous les mêmes. Je trouve que c'est ça la différence. Et je trouve qu'avant aussi, il y a 20 ans, même pas moi, ma génération, mais même un petit peu avant, il y avait beaucoup plus de grands joueurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un joueur un petit peu technique et grand joueur, de suite, il sort du lot et on en fait. À l'époque, tu regardes le Ballon d'Or des années 90 à 2000, chaque année, c'est un nouveau. Il n'y en a pas un qui a fait un doublé, un triplé ou quoi que ce soit.
Samir Nasri est avec nous dans Génération After, on se régale. Merci d'être avec nous. Tu restes encore quelques minutes.
Là, c'est bon, là, c'est pied droit, pied gauche.
Dans Génération After.
Il peut rester 2h30.
Il y a eu un gros débat tout à l'heure sur le chat. Attendez, les gars, on a souvent dit que c'était Ben Arfa le plus grand génie de technique en France. Mais Samir Nasri était-il pas supérieur à Ben Arfa? T'en penses quoi, toi?
C'est différent.
C'est différent.
Totalement différent.
Technique différente.
Plus dans la passe, Atem plus dans l'élimination à un contre un.
Ah oui, parce qu'en fait, et c'est ça le vrai problème dans le football, et tu parles des différentes générations, et c'est ce que j'appelle, moi, le comment dire, pour pas être trop dur, mais je vais pas dire le scandale, mais le gros problème avec les highlights, notamment sur, tu sais, maintenant, il y a les fameuses vidéos.
Les compiles.
2 minutes 30 de Ryan Cherki.
Ça, ça l'énerve, ça.
2 minutes 30 de Noah Lang. Ah, Noah Lang. Hein.
Non, partons pas sur Noah Lang. Non, mais ça va être insupportable.
Pourtant, c'est un néerlandais. 2 minutes 30. Le gars, il te fait, ou alors la dernière vidéo d'Mbappé, la sortie par le Real ou par la Liga. Le mec, il fait double passement de jambe, il perd la balle. Ouah, Kylian Mbappé.
Mais là, ça prend d'éducation aussi parce que les gamins aujourd'hui.
Non, mais ça me rend dingue.
Beaucoup de gamins s'émerveillent devant ça. Non, mais ça me rend dingue.
Pourquoi l'Espagne. Attends, on a encore 30 secondes.
Non, c'est fini. Regarde, c'est fini. Il est fou, lui.
Pourquoi l'Espagne.
Ça fait 5 ans que t'es là, tu vois pas le finish, là.
Ça fait 8 ans qu'il est là, il comprend pas.
Pourquoi l'Espagne, elle est la population footballistique la plus technique? C'est pas des dribbleurs. C'est qu'ils vont te faire. C'est ce que Guardiola, le Barça, l'Ajax. Ils vont te faire le là, tu vois, entre toi et Walid, sur le pied droit. Parce que le but est là-bas. Ça, c'est une passe très technique dans la course, dans le bon tempo, dans le bon timing. Est-ce que le terrain il est mouillé? Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce qu'il est sec? Est-ce que je dois appuyer? Mais c'est pas deux passements de jambes et la touche d'après, la passe, elle est en touche. C'est ça que je comprends. Donc, Atem Ben Arfa, excellent dribbleur, peut-être même bon passeur. Et puis après, Benzema, très bon finisseur. Menez, dribbleur. Nasri, plutôt passeur. Fabregas, uniquement passeur, il va à 2 à l'heure, mais peut-être meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est chaque joueur a ses caractéristiques.
On a gratté encore 10 minutes avec toi, Samir. On a négocié. Reste avec nous, Samir Nasri, Kevin Diaz, vous êtes déjà chaud dans un instant. Tiens, il y a des appels au 32-16.
Il est lancé, Kevin.
On va vous donner la parole. On va parler de la liste de Deschamps aussi rapidement avec toi. Reste avec nous, Génération After RMC, 21h27.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Kevin Diaz est là ce soir sur RMC. Willy Dacharchour est là aussi. Samir Nasri aussi est avec nous jusqu'à 22h.
On peut pas passer ce qu'il y a à la pub? À la pub?
Non, c'est pas là. C'est le off, garçon.
Non, il y a des émissions tu sais, qui passent aussi.
Ouais, mais le off, c'est le off.
Le off, c'est le off.
On aura la pub, reste à la pub pour la Kings League. Dommage, on aura même pas le temps.
C'est pas prioritaire du tout, en fait. Il y a plein de choses encore.
Nicolas
et notamment.
Il y a même pas, c'était pas dans Génération.
Ah, t'as raison, on aurait pu le faire. On va trouver un truc.
Je reviendrai pour ça, si vous voulez.
Tu reviendras avec plaisir. Tiens, petit plaisir, Walid Acharchour, hein, les plus belles perles de Walid, c'est parti, medley.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait que il cache la cause.
C'est un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits. Maintenant, si on doit on doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul, il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression et Fonseca, c'est pas un pimpon.
Bon, sinon tu
moi si il y a Astérix, Obélix, Vercingétorix, Milou,
Vercingétorix.
C'est simple comme l'eau de roche, hein.
Clair non, comme l'eau de roche.
C'est clair comme l'eau de roche, hein.
Vous voyez pas Samir, il est pris en deux, évidemment, c'est un régal. Nous, on kiffe, hein.
Franchement, c'est sûr et certain.
C'est extraordinaire. Mais t'en fais moins dans la vie, c'est bizarre, en fait. Quand tu réserves ça, le soir
dans la vie, t'en fais pas.
En direct.
C'est la pression, c'est la passion.
Bon, je vais accueillir, il y a des appels au 32-16. Il y a Arshad qui est avec nous, supporter de l'OM. Salut, Arshad. Tu es là. Bonsoir, bienvenue dans Génération After.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Walid. Bonsoir,
Kevin.
Samir.
Bonsoir.
Samir, Kevin.
Salut.
Déjà, merci Samir pour tout. Moi, je suis celui avec qui, en fait, je suis un peu, je sais pas par où commencer. En vrai, Samir, c'était celui qui nous a fait kiffer le foot. simplement.
T'as quel âge, Arshad?
J'ai 26 ans. D'accord. J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc, sur le passage à Marseille, j'ai 6-7 ans. C'est le premier footballeur que je suis. Et tout à l'heure, on a évoqué Sochaux, la finale à Sochaux. Moi, le titre de champion de 2010, je l'échange 1000 fois contre le tir au but de Zoubar. Mille fois. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Parce que on a aussi évoqué Bessa tout à l'heure. C'est surtout les émotions qui comptent. Et les émotions que tu as pu faire ressentir à toute cette génération, à tous les Marseillais sur ton passage, ils sont bien plus forts que certains. Peu mettraient beaucoup de devant toi. Donc sur ça, je pense qu'il n'y a aucun regret à avoir. Je suis personne pour te le dire, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le dire. Il n'y a aucun regret à avoir. Et sur toute la dignité que tu as pu avoir envers le club, l'institution, à la suite de ta carrière, c'est qu'une fierté pour nous. Et vraiment, merci.
Ben merci beaucoup. Après, je suis désolé de te dire ça. C'est vrai, les émotions, mais un titre, ça reste, tu vois. Ça reste gravé dans le marbre. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé faire avec mon club. C'est même si j'ai été formé à Marseille, j'ai grandi dans cette ville là Marseille, c'est tout pour moi, c'est ma passion, c'est tout. Et j'aurais vraiment aimé avoir soulevé un trophée au moins.
Ouais, mais comme tu as dit, c'est pas fini. Et je pense que l'histoire nous fera boucler la boucle avec un titre en tant que dirigeant, entraîneur. Ah. On sait qu'il y aura quelque chose, ça on est tous persuadés. Et j'aurais juste une petite question ou une petite intervention. Et
vas-y, vas-y. Vraiment,
et Walid aussi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'au-delà que nous, supporters marseillais, on dise merci, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de cette génération qui doivent te dire merci, que ce soit Kylian Mbappé, même des Antoine Griezmann ou n'importe qui. Parce qu'en fait, vous avez payé le prix vous avez pris pour la future génération.
Et c'est ça, très intéressant ce que tu dis.
Les gens ne mesurent pas.
Et tu verras dans le docu, mais il y a, moi pour moi la meilleure.
Jérémy a fait une très bonne intervention.
Pour moi la meilleure intervention, c'est celle de Jérémy Ménez à la fin où il explique, ouais. Il disait que pour nous, à l'époque, on pensait pas être des exemples, qu'on voulait juste jouer entre copains, que peut-être on n'a pas assimilé tout le foot business. Il parle aussi des codes, notamment sur le rap, sur les casques, etc., ouais. Sur le je parle pas d'âge, et qu'en fait au final c'était peut-être une génération sacrifiée qui a permis à ceux 10 ans après de les faire passer.
C'est comme une forme de génération témoin en fait.
Ouais.
Ceux qui, en tout cas, parce que après, il n'y a pas eu que des gars qui ont réussi après vous, mais c'est vrai que voilà, la génération 87, elle a servi de témoin parce qu'il y a ceux qui ont grandement réussi, il y a ceux qui ont moins bien réussi, parce qu'il n'y a pas que vous, après, il y a les moins connus aussi, et les générations qui sont venues juste après. Mais c'est vrai qu'un gars comme Mbappé, comme Griezmann, mais aussi avec leurs entourages, ils se sont très très vite staffés, ils ont compris pas mal de choses que vous avez peut-être mis du temps à comprendre.
C'est clair, on n'est pas préparé à ça. Jérémy le dit bien. Quand tu fais ça et tu le sais, quand tu as évolué dans le monde professionnel, pour toi, tu peux pas être un exemple. Tu te rends pas compte en fait que tout ce que tu fais va être épié et que des jeunes vont te prendre et t'idolâtrer. Même si toi, tu as été dans cette position-là où moi, je regardais Maradona, mais je me suis jamais dit dans ma tête, ah mais je suis un exemple pour des milliers de gens. Non, pour moi c'est je vais jouer avec mes potes et je fais mon match en fait. Et on se rend pas compte que toutes nos actions ont des répercussions sur les gens.
Merci Arshad pour ton témoignage.
Si je peux juste me permettre. Et en fait, moi je pense que justement cette génération sacrifiée a fait évoluer la société. Et Samir, je te le dis, et ça a été ton ami à un moment donné quand Benzema a dit que son ballon d'or n'est pas politique. Il est politique et votre carrière et vos sacrifices, ils sont politiques. Et ça, il faut le dire aussi. Et pour nous, c'est une fierté d'avoir des gens comme toi à la télé, comme Walid, comme Elton. Et je pense que c'est important de le dire. Merci à vous de représenter. Levez toujours la tête, Walid. On est fiers de vous écouter et c'est très important pour tout le monde. Et voilà.
Merci Arshad d'être venu sur RMC.
Merci.
Très bonne soirée. À très vite. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Demain soir, tirage au sort Ligue des Champions. Passe de ligue les gars, Marseille, Monaco, Paris. Enfin, Marseille un petit peu quand même.
Il est excitant ce tirage au sort. Hein.
Il est excitant. Bon, il y a 4 chapeaux, mais les chapeaux veulent plus rien dire en fait.
Oui, c'est vrai.
Tu affrontes deux équipes de chaque chapeau, donc ça veut plus rien dire. Marseille sera a priori chapeau 3. Est-ce que tu penses cet effectif-là à 5 jours de la fin du mercato? Là, tu as notamment Ceballos, on peut en parler, qui va pas venir. On va en parler dans un instant. Cet effectif-là, tel qu'il est configuré aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nourrir comme ambition en Ligue des Champions?
Dans les 24.
24. Après, on verra, c'est du
après,
bonus.
Après, on verra en fonction du tirage au sort. Mais pour moi, cet effectif-là, avec les efforts consentis sur certains postes, et je pense aussi que le mercato marseillais n'est pas terminé. Je pense qu'il va falloir doubler certains postes où, pour moi, il y a encore certaines lacunes et pas assez de couverture, notamment sur le poste de latéral gauche. Pour moi, il en faut un. Il me faut j'aimerais bien un milieu de terrain aussi côté marseillais pour densifier un petit peu ce milieu.
Créatif ou destructeur?
Pour moi, destructeur un petit peu et aussi un créatif. Pour moi, il en manque. Pour essayer d'aller un peu plus loin, d'avoir autant d'ambition et aussi réussir une saison en Ligue 1, pour moi,
en
termes numériques.
Avec ou sans Rabiot?
Pour moi, il est.
Tu le comptes.
Non,
même
moi,
avec Rabiot ou sans.
Non, pour moi, je le compte pas.
Je compte pas Rabiot.
Ouais. Moi, je le compte pas parce que, compte tenu des déclarations des uns et des autres, pour moi, je vois pas l'OM le réintégrer sans que Rabiot fasse des excuses et des avoues en gros sa maman.
Sa conseillère et sa mère.
Et il a jamais fait, il a 30 ans, je pense pas qu'il va le faire aujourd'hui. Donc, pour moi, si l'institution marseillaise se veut aussi forte, comme elle l'a dit d'ailleurs au départ, de les mettre à pied parce que l'institution passait au-dessus. Pour moi, je fais sans Rabiot en fait.
Mais sur en tout cas les pistes, là on parlait de Palmieri qui pourrait être latéral gauche, Ordonez ils veulent le faire, donc en défense centrale. Tu dis un milieu de terrain un peu destructeur, on parlait un peu de Florentino Luis hier,
très bon dans
ce style. Mm-hmm. Est-ce que Ahmed Traoré, qui là va sûrement arriver, qui peut jouer à gauche en remplaçant Paixão et en numéro 10, tu le comptes lui dans le créatif?
Oui. Oui, je le compte dans le créatif parce qu'il faut voir aussi comment Paixão va s'intégrer au championnat de France, parce que s'il est à l'image de ce qu'il faisait à Feyenoord, et il va tout casser. C'est très bon joueur. Après, faudra voir. Je pense que devant il y a ce qu'il faut entre Guiri et Aubameyang qui va apporter son expérience et qui est là pour mettre des buts. S'il est servi dans la surface, il va les mettre ses buts. Greenwood, moi je le trouve très bien depuis la pré-saison et même son début de saison. Je le trouve assez bon. Moi, c'est au milieu de terrain et c'est surtout comment Marseille arrive à jouer face à des blocs bas. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la clé? Parce que c'est ce qui leur a fait défaut la saison dernière sur des matchs à domicile contre des équipes qui arrivaient regroupées et qui les prenaient en compte. Je trouvais cette équipe marseillaise très naïve à la perte de balles. Et aujourd'hui, quand je regarde la composition du milieu avec Angel Gomez et Højbjerg, je trouve qu'il manque quelqu'un de destructeur un petit peu au milieu qui peut leur apporter cet équilibre, qui puisse attaquer en nombre et d'avoir quelqu'un qui est toujours là devant la défense pour justement contrôler tout ce qui est contre-attaque.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des problèmes face à des blocs bas.
Oui.
Même le PSG.
Ouais, mais à la perte. C'est-à-dire que
mais à la perte, il faut être agressif.
Bien sûr, dans la gestion de profondeur. Parce que Samir, il parlait des matchs de domicile.
Parce que
même à l'extérieur, l'an dernier,
tu peux la contrer de deux façons. Soit tu recules, soit tu continues d'avancer. Mais pour continuer d'avancer, faut pas que t'aies des mecs qui s'alignent comme des U14 à la dernière minute d'un match contre Rennes. Tu vois de qui je veux parler. Alors que c'est le capitaine de l'équipe. Donc, ça vient, le premier pressing, les attaquants. Le milieu qui est censé pousser. Et c'est vrai que moi, je te l'ai dit, Florentino Luis, j'avais pas entendu parler de ça, mais hier, franchement, c'est un vrai numéro 6, pas un grand joueur, mais vrai numéro 6.
Dans ce style-là, je sais pas s'il va arriver ou non.
Il peut aller gratter, mais un profil comme ça, c'est intéressant. Mais après, ça vient aussi de la défense derrière. Rouli, il fait le boulot pour le coup de défendre très loin de sa ligne, de couvrir les 40 mètres dans le dos. Mais l'OM, comment ils se sont fait contrer contre Traoré et contre Auxerre l'année dernière, c'est sur des transitions de 40 mètres.
Et même là-bas, Auxerre en grande difficulté, contre Reims, la même chose. Et c'est pour ça que s'ils font un mec comme Ordonez qui peut gérer la profondeur, qui peut prendre latéral droit.
Ça, c'est primordial.
Qui joue pas ce soir avec le club
Ils jouent pas, j'espère qu'à un moment donné, ça va se concrétiser.
Ils mènent 3-0 contre les Rangers.
Ouais, ils vont se qualifier.
Après, tu vois, si t'as Ordonez, moi je donne un exemple, parce que je pense dans ma tête que ça va se faire comme ça, mais j'ai beau m'imaginer, mais pour moi, Marseille va s'articuler de cette manière-là. Sur les gros matchs de Ligue des Champions, en fonction de d'où le danger va venir, tu vas mettre soit Ordonez latéral droit, soit Medina côté gauche pour pouvoir fermer le joueur fort de l'équipe, et tu mets Ouéa de l'autre côté qui vient s'intercaler parce que Deserbi il va toujours vouloir ressortir avec trois défenseurs pour avoir un surnombre au milieu de terrain. Donc en fonction de ça, si tu arrives à faire Ordonez, tu peux sur certains matchs tu vas mettre Medina à gauche. Si tu joues Arsenal, tu mets Medina à gauche pour qu'il ferme Saka. À droite, tu as Ouéa qui pourra qui pourra prendre le couloir. Donc,
et à l'inverse, avec Palmieri.
Exactement.
Samir Nasri est avec nous, tu restes encore avec nous, tu viens nous voir sur RMC pour ton documentaire dimanche soir, 21h. Samir Nasri, rebelle sur Canal+.
Il aurait été bien dans Génération After quand même.
Moi j'en voulais pas.
Ouais.
Moi j'ai dit non. Si Samir vient, je m'en
j'ai essayé un peu.
T'imagines bien. Ça aurait été un kiff monstrueux.
Le meilleur joueur de foot de Génération After.
Mais ça viendra.
J'ai essayé.
On peut dire des choses comme
ouais,
ça.
Ouais, j'ai essayé.
Je sais bien que t'as essayé, garçon. J'étais d'une jeune informée minute par minute.
J'ai à dire que je plaisante pour ceux qui. Non, on sait jamais.
J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, mais ça n'a pas suffi.
Bon, dans un instant, on va faire un petit quiz. Qui suis-je pour savoir qui sont les vrais suiveurs du foot. On a un petit quiz préparé par Najib en régie. Ça fait marrer, ça. Reste avec nous. La suite de Génération After. Un mot sur la liste aussi à venir. RMC, 21h45.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz. Du coup, il reste encore un peu avec nous, Samir. Samir Nasri sur RMC. À l'occasion de la sortie du documentaire Samir Nasri Rebelle, dimanche soir sur Canal+, réalisé par Marc Sauvourel. Il y aura un petit match également. Je vous dis quand même dimanche soir, 20h45. Oui. Il faudra faire un choix.
On se le fera en replay.
Marseille,
le en replay.
Le match?
Non, le doc. Okay. Après, moi, j'ai déjà vu deux fois, donc ça va aller.
La liste des champs pour les matchs qualifs pour le mondial, Ukraine et Islande, 5 et 9 septembre. Alors, sont absents de la liste, Kolo Muani, Zaïre Emery, Bouba Kamara, que t'aimerais revoir en équipe de France.
Il s'est un peu blessé, là, sur le dernier match contre Brentford.
Jonathan Clauss, Benjamin Pavard.
Il a pris Pavard, j'avais pas vu.
Non, il est pas, les absents.
Ah, d'accord.
J'ai commencé en disant les absents.
Ok, excuse-moi, Nico.
Bon, Areola n'est pas là non plus. Les frères Hernandez sont là. Rabiot est bien là. Deschamps a expliqué que voilà, il savait comment qu'il n'avait jamais eu de problème avec Adrien Rabiot en équipe de France.
Oui, avec Adrien. Oui.
Ouais,
il y a une qu'il n'a pas voulu être réserviste aussi, ce garçon, mais bon.
On a
pas,
de problème,
tout va bien.
À la carte.
Ouais, à la carte. Ouais. Ekitike n'est pas là, il dit registre essentiellement axial.
Ah oui, ça aussi.
Ouais, on savait, d'accord, c'est un problème apparemment. Ouais. Il dit aussi on le suivait déjà à Francfort.
Ça, ouais.
Ça me fait marrer à chaque fois. Il dit ça, tu sais. Genre, il sait.
À Reims aussi, il le suivait.
Oui, c'est ça, t'as raison. Il dit je ne vais pas accumuler les joueurs du classique.
Ouais.
On a pour 9 mois encore.
Ouais.
Mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Voilà. J'ai livré cette déclaration qui n'apporte pas grand chose.
J'espère qu'il a le potentiel pour l'équipe de France.
Peut-être faire demi-finale et gagner la première.
Dommage, Ekitike, pas dans la liste. Samir, il est prêt pour toi?
Oui, pour moi, il est prêt. Je comprends pas son absence. Comme. En fait, le sélectionneur, je le trouve à contre-temps. Par exemple, Akliouche, j'aurais plus vu la saison dernière et pas de suite sur ce rassemblement-là. Sur ce rassemblement-là, j'aurais plus donné l'opportunité à Ekitike de pouvoir montrer justement qu'il a franchi un palier. Il faut aussi dire qu'il a fait 3 matchs depuis le début de saison. Il a marqué à chaque fois. Et en plus, il est intéressant dans son registre. Il est grand, il est technique, il est rapide, balle au pied. Moi, j'aurais bien aimé voir Ekitike.
En plus, avec Kolo Muani qui sort de la liste. Normalement, c'est le choix, c'est Ekitike, en fait.
Le problème, c'est que Didier Deschamps, s'il prend Ekitike, qu'est-ce qu'il fait s'il met 2 buts?
Ah, il lui pose des problèmes.
Bah oui, je t'ai entendu aussi en parler. Mais il est comme ça, Didier Deschamps. Il va pas se rajouter des nœuds au cerveau. C'est-à-dire qu'il va être là, il va se dire bon. Là, si je prends Ekitike, déjà ils vont me dire ah oui, mais il a pas joué ou il a pas, donc il faudra le reprendre jusqu'à ce que je le fasse jouer. Et puis après, là, Kolo Muani, il faut quand même que je lui garde une fenêtre. Ekitike, il joue 9. Mais Mbappé, il faut le mettre 9 parce qu'il défend pas. Dembélé, il peut jouer 9 aussi. Mais bien sûr, il le sait très bien. Il le sait. Mais il prend Akliouche. Personne va lui parler d'Akliouche.
Oui, mais le problème,
il va lui laisser ses 3 minutes. Oui. 3 et 4 minutes.
Le problème, c'est voilà, que Ekitike, le problème, en fait,
il va le bloquer.
Le problème, tu le repousses.
Tu le repousses pas, il est capable
parce
de
que s'il a 15 buts en mars,
s'il est capable de pas le prendre jusqu'au futur.
Je pense pas que Deschamps fasse ses listes en fonction de Génération After.
Non, je te parle pas de vous. Mais je te parle de plus les médias vont lui demander un gars, mais il est capable de pas le prendre.
Moi, pourquoi je voulais voir Ekitike? Parce que je pense que son profil est archi complémentaire de celui de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé peut partir du côté gauche, par exemple, sur le but de Gakpo. La passe, elle est bien dosée, elle est mise dans le bon tempo quand il marque son but. Et je pense que son association avec Olise ou avec Dembélé ou avec Mbappé, je pense que ça aurait fonctionné.
Mais il le connaît pas.
Samir,
il le
connaît Kevin. Pas. Ryan Cherki dans la liste aussi. Il commence à s'installer en équipe de France. Comment tu vois son évolution? Il franchit un palier à City avec Pep Guardiola. Il a fait une première titularisation ce week-end, pas forcément convaincante, pas horrible mais pas convaincante.
Un peu dans le dur.
Comment tu vois son potentiel surtout?
Non, le potentiel pour moi n'a pas de limite à partir du moment où il arrive à assimiler la méthode Guardiola. Parce que Pep Guardiola va le faire énormément progresser d'un point de vue tactique et même au niveau de l'effort. Parce que les équipes de Pep Guardiola, c'est du pressing, c'est énormément d'intensité. Et je pense qu'il a les qualités pour pouvoir le faire. Maintenant, à voir. Parce que moi, j'ai toujours eu le seul petit problème que j'ai avec Ryan Cherki, c'est son irrégularité. J'ai jamais remis en doute son talent. Je pense qu'il a un talent, il a un talent spécial. Il est vraiment bidextre. Il a une très bonne technique. Il sent le jeu. Il est beau à voir jouer. Mais je demande de voir comment il va réussir à faire évoluer son jeu, parce qu'il lui manque ce petit truc-là pour moi pour être au très 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 haut niveau.
Bon, voilà pour l'équipe de France. Une autre question aussi.
Il y a aussi un problème au poste de milieu de terrain. Il met Désiré Doué milieu de terrain, d'accord.
Il met Kliouche attaquant.
Et toujours pas de Tolisso.
Tolisso, il a
donc,
dit.
Non mais donc Tolisso.
Il a dit bien sûr que je le suis.
Ouais, enfin heureusement qu'il le suit. Mais moi je ne comprends pas ce qu'il nous
dit,
fait.
J'ai vu jouer au Bayern.
Enfin, je comprends pas le traitement
qu'il le connaît depuis sa première période à Lyon.
Non mais pour le coup, je comprends pas le traitement de Tolisso, parce qu'il sort Guendouzi, il sort Warren Zaïre-Emery. Tolisso quand même, il enchaîne après une très très bonne saison l'an dernier, un très bon début de saison. Tolisso, il connaît l'équipe de France, il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018, il était dans le groupe en 2021. Normalement,
c'est pas l'avenir pour
lui. Non mais t'as le crédit pour revenir. C'est-à-dire que c'est un 93 hein, Tolisso, il est pas c'est pas Giroud, il a pas 38 ans. Et là, il le prend pas non plus, donc Tolisso,
après,
il peut faire
à la place de qui?
Demain par exemple, Désiré Doué, tu le fais monter à la place d'Akliouche sur les offensifs, et tu mets Tolisso un vrai milieu de terrain, parce que Doué, il l'utilisera pas dans le trio du milieu de terrain, ou en tout cas en double pivot.
Bon. Donc, quelques secondes pour ce petit quiz, les amis, pour voir qui est un crack là.
Je viens de prendre une soufflante là, il y a une heure et demie.
Qui suis-je? Écoutez bien, je cite des clubs.
Il m'a fait trois joueurs, je les ai pas
trouvés. Année de naissance, on y va, vous êtes prêts?
Allez.
C'est pas hyper facile. Hein.
Ouais.
Bon, on commence par le plus facile. Né en 1983, club, j'ai dans le désordre. Newcastle, Lyon.
Roma.
Yanga
Mbiwa?
Non, 83, Walid.
Ah. Roma, AJ Auxerre, AC Milan.
Mexès.
Merci, Kevin.
Ah ouais.
Bravo. C'est fort. Bravo.
Newcastle?
Mexès, Newcastle?
Il n'a jamais joué à Newcastle, Philippe.
Ouais, erreur.
Ouais, erreur. Excuse-moi.
Erreur.
Grosse erreur.
On oublie ton point. Terminé.
Non.
Bah si,
ils auraient trouvé sur Newcastle. J'étais sur bon son, moi. J'étais sur bon son. Lyon, Newcastle.
Alors, né en 1980, les gars. Les clubs, Deportivo La Corogne. Newcastle.
C'est un français ou pas?
Non. Okay. Celta Vigo, Levante, AEK Athènes. Pas simple.
Qu'est-ce, il a quel âge?
80.
Aujourd'hui, il a 45 ans. Quoi.
Il est ses clubs, c'est quoi, pardon?
Deportivo La Corogne, Celta Vigo, Levante, Newcastle, AEK Athènes.
C'est dans cet ordre?
Non.
Alors, l'ordre, c'est La Corogne, Newcastle, Celta, Levante, AEK Athènes.
Pandiani?
Dur.
Fran?
Pas loin.
Macaï? Non, pas Macaï, ah, Bayern. Non.
Initial, DT.
Tété,
Diego Tristan.
Merci,
Diego
Tristan, Samir. Exactement.
Il fait une passe D sur Fran.
Facile. Né en 1976. Club Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough.
D'accord. Viduka.
Marseille.
D'accord, non?
Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough, Marseille. C'est pas dans l'ordre.
Parme, Inter Milan, Middlesbrough.
Les gars, oh.
Que de rue?
Légende.
Non?
Légende à Marseille.
Légende à Marseille?
76.
Il a quel âge?
Parme.
Il a 46.
Il est au club actuellement.
Non.
Qui est au club? Il est au club, il est à Marseille.
Fabrizio
Romanelli.
Voilà. T'es un peu déçu. Ah,
celui-là, je l'avais pas. Hein.
Ouais, moi non plus.
Alors, mais on n'a pas dit la Juve. Vous oubliez des clubs.
La Juve n'a pas été dite. Il est pété le quiz de
Najib. Najib, là, il nous a
laissé abuser.
Il nous oublie la Juve.
En fait, il nous met des embûches, il enlève des trucs.
Il me dit 4 minutes pour le quiz et tu m'envoies une bouse. C'est pas grave.
On aurait raconté.
C'est ça, Génération After.
C'est ça, on est imparfait. On sait qu'on est imparfait.
C'est du direct.
C'est comme ça.
Mais on aurait raconté l'histoire de William Arrouse.
On assume nos défauts.
On va faire une pause. William Arrouse, rapidement, en 30 secondes.
Raconte-la.
Ton joueur, sa mort,
Lusitanos. Écoute, un jour, j'ai mon fils qui m'envoie un truc sur Twitch.
Et je vois que mon joueur, il est à la Kings League. Je vois qu'il est sélectionné par une équipe.
Il t'a pas prévenu.
Le lendemain, je dois jouer au padel avec Walid Acherchour. Je vois qu'il est sélectionné par quelle équipe? Jérémy Ménez, Samir Nasri. Les potes de Walid. Je dis, mais non. Mais non. Je vois les problèmes. Les problèmes. Tu vois, comme dit David. Le lendemain, je vois débarquer qui au padel? Samir Nasri.
Discussion pendant 3 heures.
Il s'est mis au bord du cours.
Je crois. À chaque intervalle, il me disait, mais on peut pas s'arranger.
Discussion pendant 3 heures.
Et lui, il est fort, il a pas lâché. Il fait, non, mec, c'est Samir Nasri. C'est mon joueur. Ah, il va pas jouer à la Kings League.
J'avais dit, s'il joue, on le vire.
Il avait dit, il ira en Ligue 2. Ouais. Et aujourd'hui, il joue au Mans en Ligue 2.
Voilà.
Bravo.
Et il a marqué.
Samir, merci, on s'est régalé. Dimanche soir, 21h. Samir Nasri, rebelle sur Canal+. Tu reviens quand tu veux, tu le sais bien. Merci Kevin, merci Walid. L'heure arrive avec Gilbert, bien sûr, Daniel, Flo.
Bonne saison, Samir. Tour.
Bonne saison à toi.
Merci
notamment à ton consultant et un jour sur un.
Loin de nous.
Malheureusement. À bientôt.